Africa. Tout feu tout foot, l'émission 100% foot présentée par Lamine Badiane sur Africa Radio.
Salut à tous et heureux de vous retrouver comme tous les lundis à 20h15 heure de Paris et puis 18h15 temps universel pour le rendez-vous footballistique avec l'équipe de tout foot, tout foot, je vais y arriver. Au grand complet aujourd'hui, nous vous proposons de faire un focus sur l'équipe du Bénin qualifié pour la CAN Égypte 2019. Nous aurons depuis Cotonou notre correspondant Jocelyne Senaou. Ensuite, nous parlons des championnats européens. Nous terminerons par les brèves africaines à travers le monde. Et pour vous décortiquer tout cela, messieurs le doyen Willy Dorkonon. Salut, doyen.
Oui, bonsoir mon coach, bonsoir tout le monde, bonsoir Hakim, Christiane et le fils de l'autre. Valentin Blanc.
Oui, c'est ça. Mais vous, un jour, on va vous attaquer au tribunal par rapport à cette affaire de Valentin Blanc,
oui, mais
où
c'est
la
qui
femme de Laurent Blanc
oui,
va prendre
qui...
son fils de l'extérieur.
Oui, attention, c'est... Et c'est qui l'autre,
dis,
selon toi?
Bon, ben, non, mais je vous le dis. Hein. Ouais, chaque fois, vous déconnez. Moi, je n'ai pas envie d'avoir de condamnation. Hakim, bonsoir Hakim.
Bonsoir Lamine Badiane, bonsoir à tous les auditeurs, toutes les auditrices et un grand coucou eh bien, à tous ceux qui nous écoutent depuis Abidjan.
Christian Chango.
Bonsoir coach, salut à tout le plateau, bonsoir à Valentin à la réalisation et coucou à tous nos auditeurs en France et à travers le monde.
Eh oui, c'est bien lui qui réalise cette émission aujourd'hui, Blanc Valentin. Mais messieurs, avant tout, je voudrais quand même vous présenter notre invité de ce soir, celui que je considère comme l'un des meilleurs joueurs africains, celui qu'on appelle Little Kanu, celui qui... Même quand il est malade, messieurs.
Oui.
Il est bon.
Oui, mais comparé à Kanu, c'est vrai qu'il lui ressemble au niveau de la taille, mais au niveau du jeu aussi, c'est un grand joueur. Donc,
ouais, on peut
le comparer.
Vous avez deviné qui c'était, vous, alors?
Oui, mais presque.
Ah bon, hein, donc... Messieurs, on revient tout de suite après le jingle, bien sûr. Je pense qu'il y a
plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Messieurs, l'actualité, c'est aussi le tournoi des légendes.
Oui.
Le tournoi des légendes qui va se dérouler le 8 mai, bien sûr.
Non, pas mai.
Je comprends tout là. Le 8 juin, je suis en avance là.
Ouais.
Le 8 juin, donc l'adresse, vous la connaissez. Hein.
Oui. Rue, c'est à la porte de Montreuil, ouais, stade Louis Lumière, du côté de la porte de Montreuil, donc c'est pas loin, juste à la porte de Montreuil.
Mm-hmm.
On aura les légendes du football africain, donc le Togo, la Guinée, la Côte d'Ivoire.
Et puis l'Espace FM, bien sûr.
Ouais, Espace FM.
Hésitez,
les anciens gagnants. Ouais, mais ils ont gagné, ils ont tellement gagné que ça me fait mal qu'ils ont gagné. Donc.
Messieurs, nous avons notre invité donc ce soir. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour le capitaine du Togo,
oui.
Emmanuel Adebayo.
et sourire.
Ben oui, mais c'est que c'est Emmanuel, on a fait quelque chose d'exceptionnel. En 2006, ils étaient qualifiés pour la Coupe du monde avec le Togo. Je suis allé à Monaco, je l'ai trouvé là-bas.
Ouais.
Et on a fait un film concernant un peu tous les qualifiés et tous les capitaines des cinq équipes qui étaient qualifiées. Et, et c'était des moments exceptionnels, surtout quand ils descendaient de l'avion et qu'ils dansaient. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
Bonsoir.
Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Alors, on va parler rapidement. Je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. On va te prendre rapidement quelques petites bribes de questions et de réponses. Alors, on va parler un peu de ce tournoi des légendes. Parce que c'est la deuxième édition, tu es le parrain de la deuxième édition avec notre ami Aï Ajavon, qui est vraiment le promoteur et celui qui organise l'organisateur de ce tournoi. Sur la première édition, on a eu bien sûr le Black Star, avec des joueurs que tu connais bien, avec qui tu as joué, et qui sont venus Guinéens, des Samba, comment il s'appelle, la bicyclette.
La bicycletta, Amara Simba.
Amara Simba et tout ça, tous ces gars-là que tu connais.
Pascal Fenduno aussi.
Pascal Fenduno, ton ami Pascal Fenduno.
Pascalino le fou.
Alors donc là, on a une deuxième édition. Alors d'abord, pourquoi? La première question, c'est pourquoi vouloir parrainer un peu cet événement?
Bah écoute, c'est bien vrai que c'est beau parce que bon, quand on était jeune, c'est vrai que ce sont nos aînés qu'on a eu la chance de voir la télé, qu'on a eu la chance de côtoyer de près ou de loin. Et voilà, c'est eux qui nous ont donné envie d'être footballeurs. Aujourd'hui, bon, on est devenus des footballeurs professionnels. Dieu merci, grâce à eux. Et voilà, je suis très, très content. Quand le grand frère Aïe Ajavan m'a appelé, quand il m'a demandé si j'aimerais bien être le parrain de ce tournoi, j'ai même pas hésité deux secondes. Je lui ai tout de suite dit oui, parce que bon, c'est eux qui nous ont donné l'envie d'être des footballeurs. Et d'autant plus qu'ils font ils mènent aussi par leurs associations aux orphelinats au Togo. Donc voilà, c'est ce que j'aime le plus, aider les orphelinats. Et voilà les raisons pour lesquelles j'ai tout de suite dit oui. Et je suis aujourd'hui, je ne regrette rien. Mmh. Je suis très très content d'avoir participé.
Alors d'abord, comment ça se passe avant qu'on vous dise sur la première édition qui étaient les anciens internationaux qui étaient ici? Comment ça se passe en Turquie pour toi? Vous êtes deuxième du championnat.
Ben écoute, ça se passe très très bien. Bon, on a eu 8 points d'avance en janvier. Bon, on a eu un moment un peu difficile où on avait du mal. Et là, ça va. On a renoué la victoire hier face à une équipe de Ankara Gücü. On revient au premier écho avec Galatasaray. Il nous reste 2 matchs. On a une finale à jouer la semaine prochaine contre Galatasaray à Galatasaray. Mm-hmm. Mais bon, maintenant, c'est équipe double, en fait. Si on gagne, bon, on a une énorme chance d'être champion. Et si on perd, on perd encore une fois le championnat. Mais bon, je pense qu'on a tous nos atouts pour pouvoir les poser des problèmes chez eux. Et on a la chance de pouvoir être champion cette année.
Ah ben, on va prier pour vous et surtout chercher des marabouts pour que vous puissiez gagner le championnat.
Ah. On en a besoin, merci beaucoup.
Oui, monsieur Adebayor, c'est Willy Dorkenou. Ouais. L'autre fois, on avait eu monsieur Fiao, Kofi Fiao. On a eu un ancien, très ancien, Ali Alassani. On a eu Rafiou Moutaïrou. Donc, on serait très, très heureux de vous avoir cette année. Donc, merci déjà pour la participation et ça m'a fait plaisir.
On ne le fera pas jouer. Hein. On le fera
non,
pas jouer.
Non.
Il a tellement donné que c'est.
Merci beaucoup pour votre participation déjà.
Mmh. Non, écoute, c'est la moindre des choses qu'on peut faire pour les grands frères parce que bon, écoute, ça m'est arrivé dans mes moments difficiles à Arsenal comme à Monaco, j'ai eu Kofi Fiao, le grand frère Kofi Fiao au téléphone qui m'a beaucoup conseillé, qui m'a beaucoup aidé.
Ouais.
Avant la Coupe du Monde, il était là, notamment Salou Bachirou qui m'ont donné des vrais conseils.
Ouais.
Et si j'ai fait une belle carrière, c'est parce que je suis écouté les grands frères. Dans mes moments difficiles, en fait.
Ok, bravo, merci.
Mais est-ce qu'on vous appelle toujours Little Canou?
Bon, on m'appelle toujours Little Canou. Je pense que mon idole sera toujours mon idole, même si c'est vrai que j'ai eu la chance de faire. Je ne sais pas si j'ai fait une meilleure carrière que lui, mais pour moi, c'est mon idole. Il restera toujours mon idole. Donc, pour moi, je l'appelle tout le temps, on s'appelle souvent, et voilà, il reste un grand frère, il reste mon idole. Et il restera toujours mon idole à vie.
Bonsoir Emmanuel, c'est Christian Chango. J'ai juste une question toute simple, c'est par rapport à la première ligue qui vient de terminer, comme vous y avez joué pendant longtemps. Juste pour avoir votre avis sur nos trois Africains, nos trois représentants du continent qui ont fini meilleur buteur cette saison.
Bah écoute, je suis très flatté, très content, parce que d'autant plus que quand j'étais là-bas, j'étais en concurrence avec, quand je dis concurrence, j'étais en compétition avec mon aîné, encore une fois, Didier Drogba, on s'appelle tout le temps. Il me dit, tu penses marquer combien de buts cette année? Et là, je vois ce qui se passe en championnat anglais avec notamment nos jeunes frères comme Mohamed Salah, comme
Sadio Mané,
Aubameyang, qui sont franchement, je suis très très flatté. Ils représentent l'Afrique valablement. Je peux que le souhaiter du bon chance. Et voilà, maintenant. Je pense que parmi les trois, il y a un qui peut, si eux-mêmes ils se mettent à travailler tous les jours, ils peuvent pourquoi pas visualiser le ballon d'or européen. Parce que là, ils sont pas loin.
Ouais.
On voit deux déjà qui sont en finale de la Champions League. Donc, en travaillant encore un peu plus, je pense que c'est faisable. Comme nous, on n'a pas pu le faire, maintenant, c'est à eux de le faire pour honorer l'Afrique, pour honorer tous les frères et sœurs. Quoi.
Merci. Hakim.
Bonsoir Emmanuel. Hakim Djelouat, content de te retrouver avec nous. Moi, je voulais te poser une question sur la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est ton meilleur souvenir sur la Coupe d'Afrique des Nations?
Bah, je dirais plus ma première CAN, qui était en 2002 au Mali. On était dans un groupe très difficile, le groupe du Cameroun. Il y avait Cameroun, Congo et la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire, ouais.
Ouais, ça a été très compliqué. Bon, j'ai disputé qu'un match parce qu'à l'époque, là, j'avais peut-être 16 ans ou 17 ans. Et voilà, pour moi, c'est le moment qui reste dans mon cœur parce que c'est quand même ma première Coupe d'Afrique des Nations. Après, j'ai eu la chance de disputer peut-être quatre autres, mais bon, la première, elle est toujours très, très importante.
Comme on dit, la première fois, la première est toujours la bonne.
Ouais.
Alors, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations et quelque chose qui fâche. Alors, ce match contre, parce que nous avons, depuis Cotonou, notre correspondante, parce qu'on fait aujourd'hui, on focus sur le Bénin, les écureuils du Bénin, j'allais dire les agoutis, mais ce sont plutôt les écureuils. Et donc,
c'est mieux les écureuils.
C'est mieux les écureuils. Jocelyne, vous êtes avec nous. Bonsoir, Jocelyne.
Lavine, bonsoir. Je suis bel et bien avec vous, Christian. Bonsoir. Bonsoir à Kim. Bonsoir, Valentin. Bonsoir, Willy.
Bonsoir.
Bonsoir à Emmanuel Adebayor.
Bonsoir.
Alors, Emmanuel, Jocelyne est super contente parce que quand vous êtes allé jouer au Bénin, bon, elle fait partie de celles qui avaient les maillots, qui faisaient des drapeaux, etc., etc. Alors, on va revenir un peu sur ce match et puis ensuite tu nous diras un peu comment tu vois un peu le Bénin parce que tu as fait une interview exceptionnelle après en disant que à ouais. partir du moment où vous êtes éliminés, les éperviers sont éliminés, il faudra absolument supporter les éperviers.
Les écureuils.
Les écureuils.
Les écureuils.
Voilà, c'est ça. Alors, donc, ce match, quel souvenir tu gardes de ce match-là, Adé?
Ouais, écoute, déjà, je tiens à remercier les Béninois parce que, bon, franchement, j'étais très, très touché par rapport à l'accueil, d'autant plus que c'est un match capital. Si on gagnait là-bas, on se qualifiait. Donc, quand je suis arrivé pour saluer nos supporters, qui ce sont les supporters des Togolais, quand je suis sorti pour saluer les gens, j'ai vu tout le stade Beniba, tout le stade était debout pour m'accueillir. Et vraiment, c'est énorme, c'est émouvant. J'étais, bon, c'est vrai que émotionnellement, je suis quelqu'un de très, très difficile quand même, mais bon, pour une fois, j'étais ému. Et j'ai fait un petit tour d'honneur avant le match et j'ai fait encore un tour d'honneur après le match pour les remercier, pour leur soutien. Et voilà, maintenant, d'autant plus que j'ai beaucoup d'amis qui jouent dans l'équipe du Bénin, comme Seigno, qui est un bon ami. On a vu, je joue contre lui en Angleterre, je joue contre lui en Turquie, c'est un frère. Donc voilà, d'autant plus que c'est un pays de, c'est un pays à côté, hein. Donc on peut, je le souhaite vraiment du bonheur et espérons qu'ils aillent loin à la CAN. Mais bon, j'ai beaucoup d'amis qui vont à la CAN, comme, les Ghanéens, les Béninois, j'ai des amis, égyptiens. Donc je peux que la meilleure équipe gagne la Coupe d'Afrique des Nations, mais il faudra qu'on a quand même le fair play. Pour moi, c'est très important d'avoir le fair play en Afrique.
Ouais.
Téléphone. non mais justement, une question de Jocelyne peut-être, une question.
Une question, c'est dire que est-ce que Emmanuel Adebayor va continuer sa carrière, est-ce qu'il va continuer à jouer avec les extérieurs du Togo? C'est déjà ça la question. Parce que bon, ce ne sera pas peut-être la dernière rencontre qui va opposer les écureuils aux éperviers. Donc je voudrais savoir si Adebayor sera toujours de l'expédition. Parce que bon, il faut dire que c'est le joueur entre griffes qui, voilà.
Qui peut régler le problème des éperviers.
Voilà. Donc je veux déjà savoir à l'avance, est-ce que Adebayor va revenir avec les Togolais pour jouer peut-être contre le Bénin? Voilà.
Non, mais écoute, je suis du Togo, le Bénin c'est à côté, donc voilà, je peux toutefois, si le Togo doit jouer contre le Bénin, je peux venir supporter, tant que maintenant je suis devenu supporter des éperviers, supporter des...
Donc tu veux dire que tu arrêtes la sélection?
Ouais, j'arrête la sélection, j'ai passé vraiment des moments inoubliables en sélection, 19 ans de sélection c'est beaucoup,
ouais.
Aujourd'hui à vrai dire je commence à être un peu fatigué, ça commence à être un peu dur physiquement, moralement, donc voilà, je prends ma retraite, mais je serai parmi les éperviers toujours pour leur soutenir, pour aller, même si pour aller en déplacement avec eux, je le ferai, et voilà, je serai là pour travailler avec les jeunes frères, et voilà, je serai toujours à la disposition de la sélection, mais plus en tant que joueur.
Ouais.
C'est pour
éviter
de savoir qu'il ne sera pas là, mais bon, c'est d'entendre qu'il sera toujours avec l'équipe en off et dans les coulisses. Et bon, voilà, il faut se dire que le Bénin et le Togo, c'est des pays frères. Il n'y a pas vraiment de rivalité. Nous sommes pareils, nous sommes ensemble.
Ouais, voilà. C'est ça. C'est pourquoi elle posait la question. J'espère qu'il ne va pas dire qu'il va rejouer parce que lui, il nous a tellement fatigués. que c'est...
Ah oui, hein.
Ouais, mais Jocelyne est contente qu'il ne joue pas. Moi, je suis triste qu'il ne joue plus.
Qu'il ne joue plus.
C'est ça aussi. Moi, je suis triste et elle est contente.
Justement, j'avais une question moi, par rapport à l'après, effectivement, carrière internationale. Est-ce que, Emmanuel, tu pourrais éventuellement être intéressé par approcher eh bien, l'encadrement de la sélection du Togo?
Bah, je pense qu'en étant joueur, je le faisais déjà, donc je le ferai encore avec plaisir, même si pour que j'achète mon billet moi-même pour venir soutenir les éperviers, pour venir partager mon expérience, je le ferai avec plaisir.
Mais oui, ouais. Mais tu vas éviter quand même de donner aux joueurs des gros sandwichs à l'aéroport et tout ça, comme ils l'ont fait sur la Coupe du Monde.
Ah, écoute, qu'est-ce que vous voulez, mais bon, écoute, le pays qui est comme ça, mais bon, Dieu merci, maintenant avec le gouvernement qui est en place, avec la fédération qui est en place, la situation a un peu amélioré.
Mais justement, revenons par rapport, après on va vous laisser tranquille. Cette équipe, l'équipe des éperviers du Togo avec Claude Leroy, est-ce qu'il y a eu beaucoup de choses? Je sais que vous avez connu beaucoup d'entraîneurs, dont celui qui a disparu, le Nigérien.
Stéphane Keshi,
bien sûr, avec qui vous étiez très, très lié. Je me rappelle qu'on avait fait une Coupe d'Afrique ensemble du côté de l'Égypte. Du côté, vraiment, franchement, qu'est-ce qui a changé au sein de la sélection?
Depuis que Claude Leroy il est là, monsieur Leroy, il est là. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Bah, on part à temps. Quand on arrive à l'aéroport, il n'y a plus de patates, de sandwich à l'aéroport. Ça, c'est vrai, ça, c'est important pour les joueurs dans la tête. Les voyages sont mieux organisés. Et comme lui, je pense que comme lui, il parle directement souvent avec le chef de l'État. Donc voilà, tout est rentré un peu en ordre. On paye nos primes à temps. Mm-hmm. Les remboursements des billets sont faits à temps. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus trop de malentendu entre les joueurs et la fédération. Et je pense que ça, c'est très important.
Ouais.
Malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. Mais bon, après, vous savez, ça, c'est le football. Mmh. Des fois, il faudra mieux reculer pour pouvoir mieux sauter. Et je pense que c'est ce que le Togo a fait. Maintenant, il y a beaucoup de jeunes joueurs. Maintenant, c'est comme je l'aurais dit dans les déchets après le match contre le Bénin.
Très beau discours. Ah ouais, très, très beau discours.
Ouais, j'ai suivi ça.
Merci. Il y a eu de prendre la sélection maintenant dans leurs mains, et c'est à eux de montrer la voie aux autres jeunes qui vont arriver. Mais bon, maintenant, je pense que, comme je viens de vous le dire aussi, nous, on va être dans le coulisses pour leur donner des conseils, pour leur dire ce qu'il faut faire, comment il fallait se reposer, comment il fallait préparer un gros match, et voilà. Maintenant, je suis devenu un grand frère, un supporter normal, un grand frère de la sélection togolaise.
Ouais.
On va prendre Alassane du côté du Standard. Alassane, bonsoir. Allô?
Bonsoir, coach.
Oui, bonsoir, Alassane.
Je souhaitais poser deux questions à Adebayo.
Deux questions. Allons-y pour la première déjà. On verra si on peut.
Choisir la meilleure des deux.
Il faut choisir la meilleure des deux questions.
Parce que, voilà, c'est pour demander à Adebayo qu'est-ce qu'il compte faire dans l'avenir. Voilà.
Alors, et la deuxième, rapidement.
La deuxième, parce que je crois, je l'ai une fois entendu parler, on l'a posé une question par rapport à la politique, je crois il avait dit non, c'est pas son domaine, c'est pour savoir sa position. Ah, voilà.
D'accord. Ok. Voilà. Adé.
La première question, c'est que bon, ce que je vais faire dans la Bénin, c'est que pour l'instant, il me reste encore 2-3 ans. Laissez-moi finir mon
il a un championnat turc à gagner.
Deux années tranquillement devant moi. Et après, bon, c'est vrai que à Kpalime, maintenant, j'ai acheté carrément tout un village où je suis en train de construire ma maison. Après la maison, je vais faire ma fondation. Et après ça, je vais peut-être, c'est pas encore sûr, je suis en train de voir avec qui je cherche des sponsors pour pouvoir construire un petit centre de formation au Togo.
Oui.
Mais bon, après, j'ai des bons contacts, donc je pense que ça, c'est faisable. Mais bon, après la question de la politique, ben écoute, je suis citoyen comme tout le monde, donc voilà. Si de temps en temps je vois que le Togo va bien, ben je peux pas me cacher, je le dirai. De temps en temps, si je vois aussi que le Togo ne va pas bien, je irai sur tous les étoiles et je vais crier fort que le Togo ne va pas bien. Donc voilà, je pense que le Togo me connaît quand même tout ça, et voilà.
On a un autre. Merci Alassane d'être venu. On va prendre rapidement Aiko.
Oui, bonjour.
Oui, on vous écoute.
Moi, je vais poser une question à Adebayor.
Oui.
Un joueur togolais, ouais. Il dit qu'il a fait le Togo.
On n'a rien compris.
Non, je voulais te poser une question à Adebayor.
Oui, on vous écoute.
Ouais. Parce que comme il a fait l'Afrique des équipes des PSV du Togo. Je voulais demander, est-ce que, comme il a fini sa carrière internationale, il ne peut pas devenir un entraîneur comme les autres, quoi. Nous voulons qu'il devienne un entraîneur comme les autres.
Bon, d'accord. Ok, on a compris. Ouais. Allez, vous avez entendu la question ? Est-ce que vous ne voulez pas être l'entraîneur du Togo ?
Bah, pour l'instant, je suis encore joueur, donc ça veut dire que j'ai entraîneur.
Il n'a pas le temps pour l'instant.
Bon, dans le futur, pourquoi pas ? Mais bon, franchement, pour être honnête avec vous, c'est pas l'idéal pour moi parce que bon, je m'énerve trop vite et quand je suis énervé, le mouton prend le dessus, donc ça va être difficile. Mais bon, peut-être avec l'âge, l'homme peut changer, donc on verra bien.
Ok. Alors, on va réellement revenir rapidement sur le tournoi des légendes. Donc, ouais. Est-ce qu'on peut espérer vous voir à Paris par rapport à ce tournoi-là ? Est-ce que vous aurez le temps de venir ? C'est le 8 juin. Venir donner le coup d'envoi. Comment ça se passe exactement ?
Mais je vais parler avec le grand frère Aïe, j'ai le mois de juin très très chargé.
Ouais.
Mais je ferai tout possible si je peux passer, bon, parce que c'est qu'une journée. Si je peux passer et donner le coup d'envoi, je le ferai vraiment avec plaisir. Mais bon, je vous garantis rien, mais je ferai de mon mieux pour être là au moins le jour de lancement. Quoi, en fait, le 8, je ferai tout pour être là.
Mais okay, c'est difficile, mais alors, et qui vous voyez à la dernière minute pour la Coupe d'Afrique des Nations, votre pronostic?
Bah écoute, bah quand je vois l'équipe du Sénégal, déjà offensivement c'est costaud avec Bade Keita,
ouais,
avec Niang, avec Mané qui est devant, avec Koulibaly qui est derrière. Je pense que vous avez une très très bonne équipe,
ouais.
Et je pense que le Sénégal peut poser beaucoup de problèmes. Mais bon, quand on voit aussi l'Égypte avec Mohamed Salah devant, ça va aller très très vite côté en contre, ça va aller vite. Mais bon, après c'est une Coupe d'Afrique des Nations, et quand on voit aussi ce qu'il fait aussi Maxwell à Lyon, et je vois ce qu'il fait mon ami Zaha à Crystal Palace, c'est énorme. Donc la Coupe d'Afrique va être très intéressante. J'ai hâte de regarder la Coupe d'Afrique des Nations.
Merci beaucoup mon ami. Merci. Et puis Emmanuel Adebayor, donc ce souvenir de... Il faudrait que je vous envoie le film, comme ça au moins...
S'il vous plaît, ben, appelez-moi en ligne, comme ça je vous envoie mon adresse, s'il vous plaît, ça me ferait très plaisir.
Oui, d'accord, Valentin va vous prendre votre adresse et puis il n'y a pas de souci, on va essayer de faire
merci
ça
Emmanuel.
Rapidement.
Merci beaucoup.
Merci Emmanuel. On va rester donc avec vous, chers auditeurs, maintenant pour faire le focus, bien sûr, sur les écureuils.
Les écureuils.
Alors, Kitchen Shango, les écureuils du Bénin avec notre chère Jocelyne.
Oui, merci de bien avoir prononcé, hein, de ne pas avoir dit les agoutis.
Non, c'est pas moi.
J'ai reçu un message du président Kindele que je salue, donc attention. Oui, donc pour le Bénin qui est qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le Bénin se retrouve donc dans le groupe F de la CAN 2019 avec le champion d'Afrique en titre, le Cameroun, avec les Black Stars du Ghana et avec la Guinée-Bissau. Donc, gros match pour le gros pool pour le Bénin, pardon, avec le premier match face au Ghana le mardi 25 juin 2019. Donc pour les éliminatoires, le Bénin était dans le groupe D, dans le groupe de l'Algérie, de la Gambie et du Togo, on en parlait avec Emmanuel Adebayor. Le Bénin finit deuxième du groupe à 1 point de l'Algérie avec 10 points. Pour 3 victoires, 1 nul et 2 défaites. Victoire face à la Gambie 1-0, 0-0 face au Togo, défaite 2-0 face à l'Algérie, victoire au match retour face à l'Algérie 1-0, seule défaite de l'Algérie dans ce groupe-là, défaite en Gambie 3-1 et enfin victoire au Togo, on en a parlé, 2-1 qui a permis à l'équipe de Stéphane Sessegnon de se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. C'est la quatrième Coupe d'Afrique des Nations à laquelle participe les écureuils du Bénin.
Jocelyne, c'est à vous. On vous écoute. Je crois que est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter par rapport au développement de Christian Chango?
Non, je pense que tout a été dit. Il a fait le point global. Voilà. Il faut dire que le dernier match des Écureuils, c'était face au Togo et c'était à domicile. Les Écureuils ont joué ici à Cotonou, Stade Mathieu Kérékou. Et puis, voilà, ils ont gagné les Éperviers. Bon, ça n'a pas été facile, mais finalement, ils ont remporté la victoire. Et ce qui leur a permis d'ailleurs de prendre part à la CAN pour leur quatrième participation. Je pense que tout a été dit.
Alors, justement, Catherine,
il faut savoir.
Oui.
Ce qu'il faut savoir, il faut dire que pour le moment, le sélectionneur national, Michel Duchier, il n'a pas encore sorti la liste. Donc, on n'a aucune idée de la liste. La liste n'est pas encore dévoilée. Je pense qu'il a encore un peu de temps pour nous faire part de la liste. Mais il y a trois matchs amicaux qui sont en vue, qui vont se jouer en guise de préparation pour cette équipe des Écureuils-là. La préparation va se faire au Maroc et elle va démarrer à partir du 3 juin prochain. Le premier match amical de préparation des Écureuils va se jouer le 11 juin et ce sera face au Moraditoun de la Mauritanie. Le deuxième match, c'est le 17 juin, le match amical de préparation des Sud. Et ce match aura lieu le 17 juin face à la Tunisie, qui sera face aux Aigles de Carthage. Le tout dernier match amical se jouera le 19 juin contre la Guinée, le Sénégal national. Voilà un peu les matchs de préparation du Bénin avant d'aborder cette année.
Alors justement, Hakim Jelouat, cette préparation, même si on n'a pas eu la liste définitive on peut quand même se dire que la liste ne devrait pas changer par rapport aux joueurs qui ont été convoqués contre l'Algérie et contre le Togo.
Oui, mais au Bénin, pour faire une liste, on ne peut pas se casser la tête.
Vous êtes dur, ça.
Oui, mais c'est normal. Si tu veux faire une liste par rapport à Côte d'Ivoire, par rapport au Bénin, une liste du Sénégal par rapport au Bénin, restons un peu réalistes.
Non, vous voulez dire que donc, finalement, il n'y a pas beaucoup de joueurs, beaucoup de bons joueurs à l'extérieur.
Non, mais ce que je dis, c'est clair, et Jocelyne doit me comprendre. Pour faire une liste au Bénin, c'est pas, je repère le même problème pour faire une liste en Côte d'Ivoire ni au Sénégal.
Non,
c'est clair.
J'aimerais bien écouter Jocelyne justement à ce propos. En revanche, Lamine, pour répondre à ta question concernant les matchs de préparation, je pense qu'il y a des équipes qui vont être intéressantes, comme la Mauritanie qui a bien été préparée par Corentin Martins. Il y a un très bel effectif. Ils ont faim effectivement de cette première Coupe d'Afrique des Nations à laquelle ils vont participer. Je pense que c'est des rencontres qui vont être intéressantes pour le Bénin. Il ne va pas falloir se tromper, il va falloir essayer de jouer la stratégie pour pouvoir justement aligner tous les joueurs au niveau de toutes les lignes, que ce soit la défense, au milieu de terrain. Mais j'aimerais bien écouter effectivement Jocelyne par rapport à l'effectif justement. Est-ce qu'ils sont prêts? Est-ce qu'ils sont fin prêts pour ces matchs amicaux?
Alors Jocelyne.
Oui, pour les matchs amicaux, bon, je pense que l'équipe, pour le moment, les joueurs, ils sont éparpillés, ils sont chacun dans leur club, ils sont en train de jouer. Donc, c'est quand ils vont commencer la préparation qu'on saura vraiment, on aura une idée de la liste provisoire et de la liste définitive après. Pour le moment, je pense qu'il se pourrait qu'on reconduise l'effectif de ces joueurs-là qui ont joué face au Togo, mais peut-être il se pourrait qu'il y ait des absents et que d'autres nouveaux joueurs viennent renforcer la team. Donc, pour le moment, je pense que Dussier, il est resté bon, ferme. On n'a pas encore de liste, on n'a pas encore une idée. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, les leaders de cette équipe-là seront là, ils seront présents. Et puis après, les joueurs du championnat national qui ont renforcé l'équipe, peuvent peut-être quitter au détriment de d'autres joueurs internationaux.
Alors justement, au niveau du championnat national, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont crevé l'écran pour qu'ils puissent peut-être penser à intégrer le 11 du Bénin?
Pour le moment, il y a quelques joueurs qui se détachent quand même du lot, 3-4. Mais ceux qui avaient renforcé l'équipe pour jouer face au Togo, il se peut qu'ils ne soient plus convoqué, je le dis parce que bon, lors des phases allées de ce championnat-là, ils ont été poignants, mais là, nous sommes en train de jouer les phases retour et puis c'est des joueurs qui sont quasiment absents. On ne les sent plus du tout dans le championnat national, donc il se peut qu'ils ne soient plus convoqués.
Alors, Doyen,
c'est ce que je pense. Hein.
Oui, Doyen, on a vu l'équipe, les équipes des matchs amicaux.
Ouais.
Est-ce que c'est un bon choix?
Oui. C'est un bon choix par rapport
parce que d'habitude,
au profil, par rapport au profil, c'est un bon choix.
Non, mais justement, ce qui est étonnant, c'est que quand on choisit une équipe contre laquelle on doit jouer en match de préparation, c'est qu'on a tendance à croire que dans sa poule, on a le même profil.
Oui, c'est pour ça que je dis que c'est un bon choix.
Prenons la Mauritanie. Mm-hmm.
Alors, pas la Mauritanie, moi je prends la Guinée par exemple.
La Guinée, vous rappelle qui dans le groupe?
Le Ghana. Ils ont le même jeu, un peu de finesse, plus de finesse. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un bon choix.
D'accord.
C'est par rapport à la finesse de la Guinée que moi je vois que quand pour jouer contre le Ghana, il mieux vaut jouer contre la Guinée par exemple. Pas comme le Cameroun, c'est plus dur. D'accord. Mais la Guinée a une finesse. Il joue comme le Ghana, donc c'est pour ça que je dis automatiquement que c'est un bon choix.
Christian Chango, l'autre match, c'est qui?
L'autre match du Bénin, j'ai pas les équipes.
La Tunisie?
Oui, la Tunisie.
Alors, la Tunisie rappelle qui?
Il y a la Tunisie, la Mauritanie et la Guinée.
La Guinée ressemble au Ghana, comme on l'a dit, le doyen.
Ouais.
Mais la Tunisie, dans le groupe du...
Après, il reste le Cameroun et la Guinée-Bissau.
Ça ressemble à qui, le jeu?
Le jeu tunisien,
Le tunisien, peut-être, c'est pour aller un peu plus loin quand ils seront au second tour. Mmh. Ouais. Donc, la Tunisie, c'est un grand d'Afrique. Donc, mieux vaut choisir un grand pour essayer d'avoir une idée. Ouais, parce que la Tunisie, c'est un grand d'Afrique. Donc, ils sont plus ou moins les favoris.
Deuxième match. C'est le deuxième après la Mauritanie. Ça va être intéressant. Ils vont pouvoir se jauger, voir un petit peu. Quel est l'état de forme des joueurs,
le niveau.
Mais dans ce cas-là, si on fait un match contre la Tunisie et vous prenez, disons, 7-7-0 par exemple face à la Tunisie, Jocelyne, comment on va voir le moral des écureuils?
Bon, c'est un match préparatoire. Je pense qu'ils vont... Ils vont essayer de se mettre à fond là-dedans.
Ouais.
C'est pas possible qu'un 7-0 arrive.
Il
ne faut pas vendre la peau de l'ours.
Mais on ne sait jamais, vous savez.
Ce n'est pas possible. Bon, la Tunisie sera nettement en dessus du match, puisque, comme vous l'avez dit, c'est un grand d'Afrique. Et puis, c'est une équipe avec assez d'expérience comparée au Bénin, aux écureuils du Bénin. Mais c'est déjà bien qu'ils s'affrontent pour un match préparatoire. La Tunisie va dominer le Bénin, c'est possible. Bon, mais je pense que les leçons qu'ils vont tirer seront beaucoup plus bénéfiques pour la suite de la compétition. Je veux parler de la CAN, quoi.
Impossible n'est pas africain.
33-1-55-07-58-00.
Qui l'aurait cru face à l'Algérie? C'était pas gagné d'avance et puis le Bénin l'a fait.
Ouais, il fallait battre l'Algérie.
C'est ça.
Il fallait, les battre.
Donc, il n'y a pas de match.
C'était pas gagné d'avance. Hein.
Non.
Il n'y a pas de match au stade de Cotonou. Parce qu'au stade de Cotonou, c'est tout autre chose.
C'est vrai que la CAN ne se jouera pas à Cotonou, les matchs de préparation non plus. Mais je pense que le mental actuellement au niveau de l'équipe, parce que déjà, ils ont réussi à se qualifier pour la CAN, ça leur a coupé le moral. Et je pense qu'ils vont rester sur cette lancée-là pour affronter que ce soit les matchs amicaux et même les premiers matchs de la CAN. Donc,
c'est un bon moyen de...
Pour le moment, il est... Et puis au niveau de chaque joueur, l'objectif c'est déjà passer le premier tour. Je pense que c'est clair dans la tête de tous les joueurs. Mmh. Et quand l'objectif il est le même, il n'y a pas de raison pour que ça ne passe pas, quoi.
Alors vous nous écoutez sur Africa Radio bien sûr, Paris 107.5, Melun 92.3, Mantes-la-Jolie 86.7.6, Abidjan 91.1 et en DAB+. Paris, Lille, Lyon et Strasbourg. Appelez-nous sur le numéro WhatsApp 337-66-1977-69 et sur le standard, bien sûr, 331-55-07-58-00. Bonjour, monsieur Simon.
Oui, bonjour, coach.
Oui.
Adebayo est parti, je voulais lui poser une question.
Ouais, il est fini. Il n'avait pas le temps, donc il est parti.
Posez-moi, c'est moi Adebayo, non?
Ah bon, d'accord, c'est vous Adebayo, voilà. Ce que je voulais dire par rapport à Adebayor, je voudrais lui dire merci de tout ce qu'il a apporté pour le Togo. Mm-hmm. Mais il y a une chose qui m'embête un petit peu chez lui. Et il tient des propos concernant la situation du Togo en disant toujours que tout va bien au Togo. Il faut qu'il arrête ça parce que les Togolais, à cause de ça, il va perdre sa popularité parce que c'est un coup de joueurs. Et je ne pense pas qu'un Togolais lambda qui entend cela peut lui dire voilà que Adebayo c'est bien quoi. Voilà. Il faut qu'il fasse son truc. Chacun joue son rôle. C'est un grand footballeur.
Mais
je ne voulais pas que sa carrière soit attachée de la politique. À chaque fois, ça fait plusieurs fois qu'il tient des propos. S'il m'entend, c'est un conseil. Et moi, je lui dis merci.
Ok, on a bien compris, Simon.
Simon, voilà, Simon, oui, je voulais vous répondre, c'est Christian Chango, je voulais vous répondre. Écoutez, on reproche à beaucoup de personnes célèbres, connues, de ne pas donner leur avis sur les questions de politique notamment. Et là, l'auditeur précédent lui a posé la question, il a répondu en toute franchise. Il l'a dit, si ça va bien, je le dirai, et si ça va mal, tout Emmanuel Adebayor qu'il est, il répondra. Même si c'est une personne célèbre, il a le droit de donner son avis ou de ne pas le donner, et il a répondu. Donc, il ne faut pas le juger, chacun a son avis sur la politique. Non, mais il a le droit de donner son avis, on lui pose la question, il répond, il ne s'échappe pas, et il faut lui laisser au moins ce crédit-là.
Il a d'ailleurs répondu à 3-4 auditeurs ce soir.
Oui, mais ce que je vous dis, moi, autour de moi, les gens n'aiment pas ces déclarations.
Ah, mais c'est. Il y en a qui n'aiment pas la pluie, il y en a qui n'aiment pas la neige. Écoutez, ça, c'est le problème de chacun.
Lui, il connaît que Lomé. Il connaît que Lomé. Donc, tout va bien. Lomé, il faut qu'il aille.
Bon, ok.
Merci beaucoup.
Cette situation, quoi.
Simon, on a bien compris. Merci, ben, on va transférer. Il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur la radio africaine. Et Jocelyne, vous restez avec nous. On va passer une page de pub. Une pause. On va faire une pause. Petite pause. Là.
Plein feu sur les championnats africains sur Africa.
Sur Africa Radio avec Christian Sango, avec le doyen Willy Dorkono, Hakim Djelouad. Et puis nous sommes toujours avec notre correspondante sur Africa Radio, bien sûr, Jocelyne Senaou. Je rappelle que nous faisons un focus sur le Bénin, les écureuils du Bénin, je l'ai bien dit cette fois-ci.
Ouais.
3 matchs de préparation pour réussir un bon parcours à la CAN. Le Bénin ne lésine pas sur les moyens, donc le sélectionneur Michel Dissoué a ajouté une 3e rencontre amicale à son programme initial avant de s'envoler pour l'Égypte.
Ouais.
Les écureuils qui seront en stage au Maroc à compter du 3 juin, comme nous l'a dit Jocelyne, affronteront successivement la Mauritanie, donc le 11 juin,
ouais,
la Tunisie le 17 juin et la Guinée le 19 juin. Donc tout cela destiné à valider le projet de jeu de l'équipe, mais aussi à analyser les forces en présence.
Ouais.
Donc ces matchs pourront être révélateurs sur la condition physique des joueurs qui seront appelés par Michel Dissoué et leur entente sur le terrain. Alors pour rappel, le Bénin donc évoluera lors du tournoi dans le groupe F face, ouais, au Cameroun, tenant du titre, à la Guinée-Bissau et au Ghana. Voilà. Donc doyen, revue d'effectifs, ouais, avant de donner la liste, très certainement.
Ouais.
On a un entraîneur qui connaît très très bien la Coupe d'Afrique des Nations parce que je pense.
Et le Bénin.
Et le Bénin, oui, ouais, parce que depuis longtemps qu'il est là.
Ouais.
Mais est-ce que réellement, Jocelyne, sur quoi devra insister le coach et quels sont les retours qu'il y a eu après le match face au Togo? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est le milieu? Est-ce que c'est le gardien? On sait que le Bénin a toujours eu des problèmes de gardien. Et comment ça se passe cette fois-ci au niveau de la sélection?
Bon, il faut dire qu'après le match contre le Togo, il n'y a plus vraiment eu d'informations que nous avons reçues. Donc, tout s'est passé à huis clos. Pour le moment, on n'a pas vraiment, vraiment d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est que, bon, très prochainement, il y aura des matchs amicaux comme vous les avez énumérés. Et puis, on attend que la liste sorte. Mais en dehors de ça, Michel Dissoué, il est à Cotonou depuis quelques semaines et il fait le tour les week-ends et même les jours ouvrables. Toutes les fois qu'il y a match du championnat national, il fait le tour des stades. Je pense que c'est pour, bon, repérer de nouveaux joueurs qu'il a et avec lesquels il a exporté son effectif. Mmh. Donc, voilà. Ça, c'est l'information que j'ai pour vous, mais les autres informations sont restées un peu à huis clos.
Confidentielles.
On ne sait pas encore comment ça va se passer. C'est vrai qu'on a des problèmes de gardien. Bon, contre le Togo, c'était Sartunia à la D. C'est pas d'habitude lui qu'on titularise, mais c'est lui qui est resté dans les buts. Et puis bon, voilà, en dehors de lui, il y a Fabien Fanol et puis il y a un autre joueur du championnat que nous avons pris. Donc, pour le moment, on n'a pas une idée de l'effectif.
Bon, en tout cas, on attend de vous que vous nous fassiez non seulement du sonore auprès du coach donc du Suyer, ouais. Et surtout quand la liste va sortir, qu'on puisse l'analyser. Christian Chango, une question pour Jocelyne ?
Oui, Jocelyne, bonsoir. Juste une question toute simple.
Bonsoir, Christian.
Sur le choix du sélectionneur du Suyer, de la fédération, de se préparer au Maroc, quand on voit que certaines sélections vont se préparer du côté de la France, est-ce que pour toi c'est un choix judicieux compte tenu du fait que la CAN va se dérouler du côté de l'Égypte ?
Où il va faire très chaud,
exactement.
Bon, je pense que le Maroc, l'Égypte, c'est pas très loin l'un de l'autre. Donc, bon, pour moi, le choix, il est parfait. Hein. Je ne trouve pas vraiment de problème par rapport à ce choix-là qu'a fait la fédération et en complicité avec sûrement le ministère et tout le staff des écureuils. Je pense que bon, la CAN se joue en Égypte et une préparation Maroc. Et bon, voilà, elle est la bienvenue, cette préparation Maroc pour moi.
En tout cas,
en France, bon, le contexte, il faut dire que la CAN se joue en Égypte, donc préparer l'équipe en France, bon, pour moi, ça pose un problème. Le Maroc, bon, c'est la bonne destination pour une préparation.
Ouais.
Oh, okay. Puisque c'est toujours l'Afrique du Nord, c'est toujours l'Afrique du Maghreb. Donc
au niveau du climat,
c'est pareil.
Il y a tout ça. Ils vont s'adapter au climat, ils vont se préparer psychologiquement. Rich.
Merci.
Bonsoir Jocelyne, c'est Willy Dorkenou, le Togolais qui est le Togolais qui est triste.
Willy.
Ouais, donc c'est moi.
Ça, il est triste, le Togolais.
Ouais, donc on n'est pas qualifié. Donc. Et c'est pour vous dire
ensemble,
que
le Togo, le Bénin, c'est pareil.
Ouais, c'est vrai, c'est nos cousins, donc c'est pas grave. Et j'ai lu une sortie de votre ministre du sport.
Des sports,
Oswald Omeki, oui. Oui, et qui disait que le problème des primes est réglé. Donc j'ai peur, chaque fois que les Africains sortent pour aller faire des compétitions de cette valeur, de ce niveau, il y a toujours des problèmes de primes. Donc je suis très heureux que je lise ça, cette sortie du ministre, que le problème de primes est réglé.
Ouais, je confirme que le problème, il n'y a pas de problème de prime actuellement.
Okay.
Tout a été réglé et c'est l'occasion pour moi peut-être de donner un carton vert à la fédération, au ministère, qui mettent quand même les bouchées doubles pour que au sein de la sélection, qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là, pour que tout se passe bien, parce que il faut que l'équipe soit dans une certaine harmonie. Il faudrait pas que ce soit des problèmes de prime qui divisent les uns et les autres. Il faut que l'équipe soit compacte pour pouvoir affronter cette CAN-là.
C'est pour ça que cette sortie m'a fait plaisir, donc je vais mettre l'accent dessus.
Donc tout va bien pour le meilleur du monde du côté
c'est une bonne base
de travail. Hakim.
Il faut dire que le gouvernement actuel met assez de moyens pour que, quand même au niveau du sport, c'est pas seulement au niveau du football, mais au niveau de toutes les autres disciplines, le gouvernement de Patrice Talon, par le biais de son ministre des Sports, Ozad Omeki, je n'oublie pas le président de la fédération, Marc-Louis Tissatu, de la fédération de football, bien sûr, ils mettent assez de moyens, et non seulement des moyens financiers, mais tout ce qui va avec, pour que la sélection se porte bien.
Une question, Jocelyne, Hakim. Que penses-tu des équipes qui sont justement dans le groupe du Bénin ? Est-ce qu'il y a des craintes de la part du Suyer, notamment des joueurs dans ce groupe où figure effectivement le Bénin pour cette CAN 2019 ?
Je pense que actuellement, bon, ce que Dussier pense, je ne sais pas trop. Mais ce que moi, je pense, c'est qu'il n'y a pas vraiment de problème. Parce que, bon, ce Ghana-là, bon, c'est un Ghana prenable. Le Cameroun, c'est vrai qu'ils sont champions d'Afrique. Mais comme vous l'aviez dit, il n'y a plus de choses impossibles dans le football. C'est possible. Je pense que même avec un match nul, ça pourrait passer. Bon. Et puis, il y a la Guinée. Bon, la Guinée, encore, elle est prenable. Hein. Moi, je reste quand même en optimiste.
C'est la Guinée-Bissau, donc. C'est la Guinée-Bissau, donc. Ça fait plaisir.
C'est le meilleur groupe que le Bénin pouvait hériter. Donc oui, voilà.
Ouais, je suis d'accord avec vous.
Bon.
C'est le meilleur groupe.
Très bonne analyse.
Il y a le Ghana, le Cameroun, ouais. Et puis, bon, la Guinée.
Oui, c'est la Guinée-Bissau.
C'est gérable.
Donc, c'est gérable.
Oui, la Guinée-Bissau. C'est ouais. Bien la Guinée-Bissau.
Oui.
En tout cas, c'est tout ce qu'on espère. C'est tout le mal qu'on vous souhaite hein, au niveau des écureuils, en espérant que. Vous passerez pour une fois au deuxième tour.
Oui, ça fait plaisir de voir les nouveaux.
Il faut reconnaître que la Coupe d'Afrique des Nations ne commence qu'à partir des huitièmes de finale. Parce que tout le reste, c'est du blabla, quoi. Franchement.
Ouais, mais...
Parce que vraiment, celui qui ne se qualifie pas pour les huitièmes de finale, c'est pas la peine de rester là-bas, quoi.
Il y a déjà une canne à 21, je crois, c'est ça ou...
24.
À 24, il y a déjà des pays qui ne se sont pas qualifiés, donc c'est...
Ouais, mais bon, qui ne s'est pas qualifié.
Ouais, mais on n'est pas en train de parler de ceux qui ne sont pas qualifiés.
Merci Jocelyne, merci d'être venu sur Africa Radio. Merci, et puis on vous encourage à rechercher des informations concernant la liste des écureuils
des 23
qui seront donc éligibles pour la Coupe d'Afrique des Nations en Égypte 2019. Merci.
C'est un plaisir pour moi, plaisir de partager.
Awanou.
Toutes les informations seront dévoilées sur la liste. Je vous ferai part de ça. Ce serait avec grand plaisir d'ailleurs.
Awanou.
Je voudrais dire un grand merci à tous les auditeurs de Africa Radio également.
Merci à vous.
Merci beaucoup. Je rappelle que Jocelyne est journaliste à l'ORTB, aussi, ouais. L'Office des radios-télévisions du Bénin. Merci.
Merci.
Plein feu sur la première ligue sur Africa.
Christian Chango, on connaît le champion d'Angleterre. Et c'est.
Manchester City qui est champion de la meilleur Liga del Mundo. Oui, mes amis. La première ligue.
The best league in the world.
La première ligue qui a un accent d'Afrique. On en parlera dans quelques instants. Donc, Manchester City officiellement champion après cette 38e journée devant Liverpool. Donc, Manchester City premier avec 98 points. Liverpool deuxième avec 97 points. Chelsea troisième. Tottenham quatrième. Arsenal cinquième. Manchester United sixième. En bas du classement, Cardiff, Fulham et Huddersfield Town qui vont jouer donc les matchs de barrage. On va donner les résultats de la dernière journée. Manchester City a battu Brighton 4-1 avec notamment un but et une passe décisive de Riyad Mahrez, l'international algérien. Liverpool a battu Wolverhampton 2-0. Avec deux buts de Sadio Mané. Chelsea, Leicester 0-0. Tottenham, Everton, deux buts partout. Burnley, Arsenal, 3-1. Avec évidemment un but de Pierre-Emerick Aubameyang. United a perdu 2-0. Watford a perdu face à West Ham 4-1. Crystal Palace, Bournemouth, 5-3 pour Palace. Avec notamment un but de Wilfried Zaha, l'international ivoirien dont parlait Emmanuel Adebayor tout à l'heure. Fulham, Newcastle, 4-0 pour Newcastle. Et Southampton, Huddersfield, 1-0. Au classement des buteurs, messieurs, trois joueurs ont fini. Donc, meilleur buteur Golden Boots de la Première Ligue avec 22 buts. Pierre-Emerick Aubameyang, 22 buts. Sadio Mané, 22 buts. Mohamed Salah, 22 buts.
66 buts pour nos Africains.
Donc voilà, donc qui ont fini en tête meilleur buteur de la Première Ligue. Donc félicitations à nos trois internationaux.
Ouais.
Et juste un petit mot sur Liverpool hein, qui finit deuxième avec 97 points. Liverpool a perdu un match cette année en championnat. Donc un match de perdu, ils finissent pas premier. Et deux des meilleurs buteurs du championnat sont dans l'équipe de Liverpool. Ils ont le meilleur gardien de la saison, celui qui a encaissé le moins de buts. Ils ont le meilleur passeur, l'arrière droit. On en parlera en Ligue des Champions, de Ligue des Champions tout à l'heure. Trent Arnold qui est le meilleur passeur. Ils ont le meilleur passeur, le meilleur buteur, le meilleur gardien. Et ils ne sont pas champions.
Et ce n'est pas fini, le meilleur défenseur.
Oui, le meilleur défenseur qui est le meilleur joueur de la Première Ligue. Mais et avec tout ça,
c'est
ils ne sont pas champions.
Quelquefois, le football, il est injuste.
Incroyable.
Et ça c'est que j'arrive pas à comprendre parce que...
Ce n'est pas injuste, c'est le seul sport qui est imprévisible. Non, et c'est pour ça que c'est un sport planétaire.
Non, mais... Je sais pas.
C'est incroyable.
C'est incroyable, oui. Oui, on a quelqu'un.
Ah non, bah donc écoutez, oui, hein, on peut parler un peu donc sur cette première ligue. Hein, donc Manchester City, Liverpool, Chelsea et Tottenham sont pour l'instant directement qualifiés pour la Ligue des Champions. Après, dans deux des quatre équipes qu'on vient de citer, Liverpool est en finale de la Ligue des Champions, Chelsea est en finale de l'Europa League. Donc il y a encore des places qui vont se libérer. Arsenal est cinquième et en finale de l'Europa League. Ah oui, donc peut-être, on rappelle que le vainqueur de l'Europa League est directement qualifié pour la Ligue des Champions.
Ça pourrait être Arsenal.
Ça pourrait être Arsenal, ouais. Et sachant que Chelsea, eux, est déjà qualifié. Et Manchester United, qui finit à la sixième place. Donc, belle saison également ouais, pour les Gunners Solskjaer, même si ça a été compliqué sur la suite du championnat. Donc voilà à peu près pour les premières informations qu'on peut donner sur la première ligue qui a donné la fin.
C'est une première ligue intéressante et moi je voudrais aussi souligner la belle performance du Brésilien Lucas Moura qui est passé par le Paris Saint-Germain et qui avait quitté le club difficilement. Il avait eu beaucoup de difficultés à gérer un petit peu son départ. Ouais. Là en Angleterre, on a vu toute la confiance.
J'ai pas compris son problème au niveau
de la confiance de l'entraîneur, de son équipe, de ses coéquipiers. Formidable.
Ouais, mais c'est un joueur que j'avais découvert à São Paulo FC. Et donc j'y allais, on me l'a présenté comme le futur phénomène du Brésil devant Neymar à l'époque. Et tout d'un coup, quand il est venu au Paris Saint-Germain, je n'ai pas compris cette chute-là. Je n'ai pas compris jusque-là, je n'ai pas compris.
Attendez, soyez sérieux. Je veux dire que vous parlez de Lucas Moura, qui a passé a ciré le banc de touche ici, au niveau du Paris Saint-Germain.
On l'y a mis.
Et qui, au niveau de Manchester City, cire le banc aussi.
De Tottenham et...
De Tottenham, pardon. Il cire le banc aussi. Il a eu ce match où il a fait... Il a marqué 3 buts, ouais, mais ça ne fait pas de lui le grand joueur dont on parle.
Je parlais de lui à São Paulo FC.
São Paulo FC, c'était en 1953.
Il confirme aussi en championnat, Lamine. Hein.
Oh non, ouais, il n'a pas trop bien joué.
Il met un triplé. Peut-être qu'il a fait un petit peu de banquette, mais
il a fait banquette.
En tout cas, pour le moment, il montrait d'excellentes choses et c'est ce qu'on veut d'un joueur, en tout cas.
Oui, avant de rebondir sur Lucas, je voulais donc juste parler du champion, honneur au champion, Manchester City. Donc depuis, qui a fini à 98 points, Liverpool 97 points.
C'est impressionnant quand même.
Et il faut rappeler la série exceptionnelle de Manchester City, depuis donc la seule défaite de Liverpool face à City justement. City a gagné ses 14 derniers matchs. 14 derniers matchs, 3 buts à 1 contre Arsenal, 2 buts à 0 contre Everton, 6 buts à 0 contre Chelsea, 1-0 contre West Ham, 1-0 contre Bournemouth, 3 buts à 1 contre Watford, 2-0 contre Fulham, 2-0 contre Cardiff, 3 buts à 1 contre Palace, 1 but à 0 contre Tottenham, 2 buts à 0 contre Manchester, 1 but à 0 contre Burnley, 1 but à 0 face à Leicester, 4 buts à 1 hier face à Brighton. Donc City n'a pas volé son titre. Ils ont été poussés aussi par Liverpool derrière qui leur colle au train. Mais quand même, 14 victoires sur les derniers matchs pour aller chercher ce sacre, c'est quand même exceptionnel. Bravo, de la part de Manchester City.
Le PSG a combien de points? Non, mais je veux juste faire la comparaison.
Ouais, bien sûr, le PSG a 88 points et pour l'instant, encore 2 journées à jouer.
Donc disons
10 points de moins à peu près, oui.
91.
Mais voilà, c'est ça. Attends. Mais il faut rappeler pour City, sur cette saison, j'ai pas donné le détail, 4 défaites, 2 matchs nuls, 32 victoires.
Ouais, mais la différence, c'est que Guingamp ne joue pas en première ligue.
Ouais, non, mais bon.
Et
qu'il y a la possibilité pour chaque équipe du bas du tableau de pouvoir l'emporter.
C'est ça.
Yao, est-ce que vous êtes avec nous, Yao?
Oui, bonsoir. Je reçois 5 sur 5 depuis la Bretagne au pays de en avant de Guingamp.
Justement, on voulait vous avoir pour Monsieur Yao, on voulait vous avoir pour écouter un peu ce que vous allez nous dire sur l'en avant Guingamp.
J'ai beaucoup de choses à vous dire. D'abord, je tiens à remercier la Dream Team. Je fais allusion à Lamine Diagne, la Bebadiane, et sans oublier Hakim aussi Dioloide et notre Christian Chiango aussi en bonsoir. Tous. Et je vous écoute tout le lundi, sauf quoi, Joyen lui dit qu'il a déjà dégusté sportivement Africa 22 Sports. Donc je vous attends.
Merci pour la pub.
J'essaie de faire mon Africain numéro 1 en Bretagne, défend vigoureusement les valeurs sportives de l'Afrique à travers la Bretagne.
C'est bien.
Et on vous écoute.
C'est bien.
Pendant la CAN, je vais vous faire signe pour que vous interveniez pour qu'on défende vigoureusement la fête du football africain.
Oui.
Donc oui, ce qui s'est passé ici en avant de Guingamp, puisque je suis fan de ce club, c'est vraiment le tremblement de terre. C'était pas une surprise, on le savait, hein. Puisque là, donc, il n'y a plus rien du tout. Ce n'est pas une surprise. Il y a c'est la loi du sport, un qui monte, un Brest, Stade Brestois, au niveau de Francis Leblay. Donc, voilà. Et il y a l'autre aussi qui descend en avant de Guingamp. C'est pas bon. Ça va nous permettre. Oui, ça va nous permettre de reculer pour mieux sauter. Donc, voilà. Il n'y a rien, il n'y a plus rien du tout. Donc, voilà. C'était, voilà. Le côté aussi, le pénalty, ça nous a donné une petite lueur d'espoir un peu. Bon, on connaît le tireur aussi, hein, puisqu'il est spécialiste de volte-face aussi, du penalty aussi. Hein, donc voilà,
faut surtout pas le condamner.
Ouais, il est jeune, donc.
Non, pas du tout. Non, mais
c'est vrai, il a raison. Contre le PSG, on l'a vu, il en a raté quelques-uns.
Il a quelque chose de spécificité dans ce genre de tir, de quand il tire son penalty. Bon, c'est penalty, personne n'a jamais compris la magie du penalty. Hein, c'est la loterie, hein, c'est pile et face. Hein, donc on peut dire tout ce qu'on veut. Bon, là maintenant.
Il faut savoir le tirer le pénalty. Hein. C'est pas une loterie. Mon père m'a toujours dit que c'est pas une loterie. Il faut savoir la tirer.
Je suis entièrement d'accord. Mais dans le moment stratégique comme ça, prendre. J'accuse pas Gouvernec non plus. Prendre un gars comme ça pour tirer dans le moment stratégique qui peut changer éventuellement la donne.
Okay.
Moi, je serais à sa place, je le prendrai pas. Ça, c'est mon humble opinion. Moi, je le prendrai pas.
Okay. D'accord.
Donc, on a pour information ce vendredi, puisque Africa Média Sport relève des défis le marathon. Je fais chaque année un marathon au profit d'une association africaine qui s'appelle Amitié Saint-Brieuc Togo. Chaque année, récolter maximum de fonds pour un orphelinat au Togo. Donc, pour information, c'est
bravo.
ASBT via Facebook. Vous avez toutes les informations et j'ai relevé le défi il y a 2 semaines. J'ai battu mon propre record, moins de 4 heures, 3,52,54.
Bravo.
3,52,54. Donc je vous invite le vendredi prochain, si c'est Lamine qui va passer. Donc comme ça, Joinville va te donner toute la fonctionnalité de Africa Média Sport.
Il est au parfum, il est au courant.
D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Yahou.
Bandera vous envoie la santé. Parce que si vous n'avez pas la santé, vous ne pouvez pas parler dans le micro.
Oui, c'est ce qu'on dit.
Merci.
Merci beaucoup. Merci d'être venu sur la radio africaine. 331-55-07-58-00. Christian, alors, donc, on va quand même revenir à nos trois Lascars, les trois mousquetaires.
Oui,
même s'ils sont quatre.
Hein. Oui, donc, une fois n'est pas coutume, hein, Sadio Mané, Pierre-Emerick Aubameyang, Mohamed Salah, donc qui ont fini tous les trois meilleurs buteurs de la Mejor Liga del Mundo.
Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, d'habitude, c'est le meilleur buteur qu'on prend, mais là, ils ont tous le même nombre de buts.
Ils sont trois, ils ont 22 buts. Après moi, j'ai une attention, une tendresse particulière pour Sadio Mané, puisque c'est le seul des trois à ne pas avoir mis un seul but sur penalty.
Sur penalty.
Dans les 22 buts. Donc, pour moi, à titre personnel, si on devait pinailler, chercher dans le détail, pour moi, le meilleur buteur, c'est Sadio Mané, puisqu'il n'a pas mis de penalty. Après, c'est quand même.
Faut pas dire ça à Lamine.
Non,
mais c'est sérieux.
Dans le détail, c'est 22 buts, aucun penalty. C'est quand même exceptionnel. Ouais.
Ouais. Il y a deux choses qui jouent pour Mané. Un, il n'a pas mis de penalty dans ses 22 buts. Et de deux, son équipe est deuxième du championnat. Donc, c'est lui le premier buteur de la Première Ligue.
Après, il faut utiliser d'autres critères. Après, bon,
non, mais il n'y a pas d'autres critères. Sportivement, c'est lui le meilleur buteur.
Après, une petite donnée statistique. Donc, c'est la troisième fois dans l'histoire de la Première Ligue que trois joueurs finissent ex aequo avec le même nombre de buts. C'est arrivé en 98-99. Et la saison d'avant avec
il n'y avait pas d'Africain dedans.
Non, il n'y avait pas d'Africain. Il y avait Andy Cole, Dwight York, pour ceux qui s'en rappellent, la gâchette de Manchester. Un peu comme la gâchette de Liverpool cette année. Deux joueurs d'une même équipe. Donc c'est quand même un fait assez rare pour être souligné. Ouais. Et en plus,
juste une information. Ça veut dire que sur le dernier match, on a vu donc la remise des souliers d'or.
Tout à fait.
À Mo Salah aussi.
Exactement.
Donc ça veut dire que Mo Salah a repris du service.
Voilà, c'est ça. Justement, que tu me fais une belle passe en profondeur.
Comme
justement, c'est
comme
ça.
Comme d'habitude.
Bien joué, coach. Effectivement, c'est vrai. Mohamed Salah, l'an dernier, a fini meilleur buteur et c'était lui le soulier d'or. cette année, il y a beaucoup de personnes à tort qui l'ont critiqué. Comme quoi, c'était un one hit wonder, donc il allait faire qu'une seule saison.
Ouais.
Et voilà, cette saison, il a encore confirmé qu'il est parmi les meilleurs joueurs de Première Ligue et au monde. Et il a continué, donc il a deux années de suite, il est meilleur buteur de championnat pour un ailier. Bon, même s'il est quand même plus attaquant, c'est quand même exceptionnel. Et il faut le souligner, t'as raison, coach, et c'est important. Après, moi, ce qui me surprend vraiment, c'est, même si donc ils finissent deuxième, Liverpool, c'est que les deux, donc Sadio Mané et Mohamed Salah, vraiment les deux finissent avec autant de buts et c'est pas fini encore. On va les retrouver à Madrid dans quelques jours, mais deux joueurs d'une même équipe qui se partagent le gâteau comme ça, c'est fort.
Est-ce que il faut souligner aussi que avoir trois Africains et meilleurs buteurs de la Première Ligue, et imaginez que ces trois Brésiliens ou ces trois Français, on va encore plus entendre parler d'eux.
Parler, justement. C'est pourquoi nous, on en parle. Oui,
c'est ça, nous, on est obligé d'en parler. Parce que moi, je vous dis toujours que moi, quand je voyage, on me dit que tu viens du continent du football. Sauf que les Africains eux-mêmes ne savent pas qu'ils viennent du continent du football. C'est-à-dire qu'avoir des Africains, trois Africains meilleurs buteurs d'un championnat, c'est pas un hasard. Quand on voit Mahrez, le but de Mahrez, un Africain, Wilfried Zaha, un Africain, c'est pas un hasard. Mais on doit savoir, nous, les Africains, que le football appartient à l'Afrique. Je dis pas que c'est l'Afrique qui a découvert ou a inventé le football, mais l'Afrique a adopté le football.
Après, faut préciser à juste titre que dans les, je suivais un peu donc les médias anglais hier et aujourd'hui et au-delà donc des trois buteurs, ils ont bien souligné, ça a été mis en avant cet aspect-là, parce que cette année, même donc les trois meilleurs buteurs donc sont des joueurs africains, ils ont rendu gloire à l'Afrique justement, à juste titre. J'ai bien suivi sur tous les médias importants anglais et tous ont souligné. Les anciens joueurs qui officient sur les plateaux anglais également l'ont mis en avant et ils mettaient aussi en avant la régularité de Mohamed Salah depuis deux ans, de Sadio Mané depuis qu'il est en Angleterre, depuis Southampton qui est dans une progression constante et Pierre-Emerick Aubameyang qui qu'on a souvent critiqué, qui lui continue donc de marquer là. Quand on regarde un peu dans le détail sur ses 5, 6, 7 dernières saisons, il plante énormément de buts et c'est pas fini. Hein. Oui, il a un début de saison difficile, mais on l'a vu, on va en parler tout à l'heure en Europa League aussi. C'est lui qui qualifie l'équipe des enfants, comme je les appelle, Arsenal, pour la finale.
Il y en a qui disaient que c'était un centre de formation.
Oui, moi le premier, c'est vrai.
Exactement. Justement, est-ce qu'il y a d'autres buteurs sur différents pays?
Oui, sur les autres championnats qui ne sont pas encore terminés. Hein. On a Mbaye Diagne qui est du côté du Sénégal, du côté de la Turquie et qui est international sénégalais et qui va affronter justement Emmanuel Adebayor la semaine prochaine, qui joue donc à Galatasaray, qui est meilleur buteur du championnat turc avec 30 buts.
30 buts,
ah ouais,
30
faut
buts
le faire.
En 28 matchs.
Donc ça rejoint ce que je disais.
Oui,
en 28 matchs joués. Ensuite, on a l'international tunisien Hamdi Arbaoui qui évolue du côté de la Belgique, du côté de Zulte, qui est à 34 matchs joués à 23 buts. Encore du côté de la Belgique, un ancien joueur du TP Mazembe, Ali Samata, qui est du côté de Genk, international tanzanien, qui est à 23 buts. Et après, donc, on a nos trois flèches qui évoluent du côté de l'Angleterre. Et après, juste derrière eux, un des meilleurs joueurs du championnat de France, Nicolas Pépé
ouais,
qui est à 20 buts en 36 matchs pour l'instant du côté de la France. Et Hakim Ziyech aussi, un petit clin d'œil.
Quel joueur, quel
qui, qui quel évolue joueur. Du côté
c'est
de
normal, Hakim.
Qui, ouais, qui évolue du côté de l'Ajax, du côté de l'Hollande. Et hier, qui est sorti, donc l'Ajax a gagné 4 buts à 1 pour leur dernier match. Et il est sorti sous un tonne. C'est lui qui a eu la plus belle ovation du côté de la Johan Cruyff Arena. Apparemment, c'est son dernier match et de très gros clubs sont dessus.
Mais un big up à Onana aussi, le gardien, le jeune gardien. Ouais.
Alors, on a fini avec les buteurs là ?
Non, il y en a encore, mais il y a beaucoup de Sénégalais, je sais, c'est pour mais ça ouais, que tu veux mettre
en avant.
Il y a donc Papi Cissé du côté de la Turquie, toujours 15 buts et 10 passes décisives. Isaac Belfodil qui a encore marqué hier du côté de l'international algérien, du côté d'Offenheim qui est à 15 buts.
C'est
on a
bon ça.
Un international togolais qui évolue du côté des Pays-Bas, Pienel Mlapa, qui est à 15 buts et 12 passes décisives.
Il faut répéter, tu peux répéter
Pienel Mlapa.
C'est le seul.
Qui est, oui, c'est le seul Togolais qui est parmi cette liste des 20 joueurs. Sébastien Haller du côté de l'Allemagne également, une traite forte. Moussa Dembélé, le franco-malien, pardon, qui évolue du côté de Lyon, qui a marqué hier au Vélodrome. Ouais. On a Wabi Kazri, Jonathan Bamba également, donc beaucoup de buteurs. On vous donnera tout ça la semaine prochaine quand ce sera réactualisé. Mais surtout aujourd'hui, félicitations à Mbaye Diagne hein, qui...
30 buts. C'est costaud ça.
Et quand on est parti faire le tour en Afrique, mes amis brésiliens, ils m'ont dit, je ne sais pas si c'est, je peux, est-ce que c'est vrai, mais ils m'ont dit que les Africains sont très forts en attaque, simplement parce que l'attaque a besoin de rythme. C'est-à-dire que pour le placement des joueurs, le déplacement des joueurs, savoir où va atterrir le ballon et tout, les Africains sont très très forts en attaque.
Ils attirent le ballon quoi.
Non, le rythme, c'est-à-dire que je ne sais pas, leur déplacement, c'est eux qui ont vu ça comme ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais c'est eux qui m'ont dit ça.
On va marquer une pause, messieurs, pour la dernière ligne droite de ce Tout Feu Tout Foot.
Plein feu sur la Première Ligue, sur Africa.
Sur la radio africaine, sur Paris 107.5, sur Melun 92.3, Mantes-la-Jolie 87.6, Abidjan 91.1, DAB+, Paris, Lille, Lyon, Strasbourg. Envoyez-nous un message WhatsApp 337 66 19 77 69 ou appelez-nous sur la ligne du standard 331 55 07 58. 0-0 avec Christian Chango, le doyen Willy Derkono, Hakim Djelouat et une réalisation bien sûr de Valentin Blanc.
Le fils de l'autre, mais il ne faut pas le dire, mais tu vas avoir des problèmes coach.
C'est vous qui allez avoir des problèmes. Ça c'est
merci
clair.
Valentin.
Oui, ah c'est parti.
Oui, sur donc, la première ligue, hein, donc terminée, hein, ça y est, le drapeau, le rideau est tombé. Et puis donc voilà, vraiment City premier, Liverpool deuxième, Chelsea troisième, Tottenham quatrième, Arsenal cinquième, United sixième, Leicester a fini neuvième, Watford onzième, Bournemouth quatorzième, Cardiff, Fulham et Huddersfield donc qui terminent en bas du classement. Et on rappelle bien sûr hein, les classements des buteurs. Pierre-Emerick Aubameyang, Gabon 22 buts, Sadio Mané Sénégal 22 buts, Mohamed Salah Égypte 22 buts, voilà, pour les rois de l'Angleterre. Donc, avant qu'on passe à la Liga et à l'Espagne, vraiment, donc, pour les informations sur ce championnat. Mais du côté de l'Angleterre, c'est pas fini, on y reviendra après. Ils sont encore
bien
présents.
Sûr, bien sûr, bien
du côté
sûr, dans la Ligue des Champions.
Du
et
côté
tout ça.
De l'Europe, exactement.
Alors, meilleure Liga, aujourd'hui, malheureusement, nous n'aurons pas notre.
Ami Adama.
Hein, Adama, c'est ça, Adama, mais on va quand même passer ce jingle-là.
Ouais.
Plein feu sur la Première Ligue sur Africa.
On va avoir des problèmes avec son papa, donc c'est pour ça. Arrêtons, il est en pourparlers avec des clubs, donc attention les gars.
Alors c'est parti.
Oui,
pour
la Liga, coach, 37e journée de la Mejor Liga del Mundo selon Adama qu'on salue. Le Barça a gagné 2-0 face à Getafe. Atlético Madrid, Séville, 1-0. La Real Sociedad a battu le Real Madrid 3-1. Valence a battu Alavés 3-1. Atlético Bilbao, Celta Vigo 3-1 pour l'Atlético Bilbao. Leganés a perdu face à l'Espagnol Barcelone 2-0. Villarreal, Eibar 1-0. Le Betis Séville a battu Huesca 2-1. Gérone a perdu face à Levante 2-1. Rayo Vallecano a perdu face à Valladolid 2-1. Au classement, le Barça premier et champion, bien entendu. Atlético Madrid deuxième avec 75 points. Le Real troisième, 68 points. Valence, Retafe, Séville juste derrière. L'Espagnol Barcelone est neuvième du classement. Gérone, Rayo Vallecano et Huesca en bas de la marche. Et il reste une journée en Liga qui aura lieu la semaine prochaine, coach.
Voilà, donc...
Ouais, c'est fait.
C'est fait. Ouais, bon, ils se sont bien ressaisis là pour partir battre cette équipe de Getafe. Hein,
oui, oui, c'est ça, coach, exactement pour Barcelone hein, qui a battu Getafe 2-0. Après, on va en parler bien sûr. La claque reçue à Anfield, Barcelone qui s'est bien repris, c'est surtout le Real Madrid, déception sur cette rencontre, 3-1, défaite face à la Sociedad. On sait que le Real, ils sont déjà projetés sur l'an prochain.
Ouais, c'est
et
ça.
On l'a entendu.
D'ailleurs, le Real de Madrid avec le coach qui est en train de
de voir tous les joueurs individuellement. Il y a des joueurs qui risquent de ne pas rester.
Ouais.
On parle de Bale, Gareth Bale et tout ça.
C'est ça.
Donc, on verra. On aurait bien voulu avoir des renseignements avec notre correspondant à Barcelone, mais on lui fait un coucou. Il est malade. C'est la défaite.
Non mais écoute, c'est vrai, on va en parler dans les prochaines semaines pour le Real Madrid. Donc c'est vrai, parmi les indésirables, comme on dit, notamment l'international gallois Gareth Bale, qui va très certainement quitter le Real Madrid. Dans les dernières infos que nous avons eues, c'est un secret pour personne, hein, du côté de Chelsea, Eden Hazard va bientôt quitter le club. Et donc on a eu l'information là qui est tombée, qui sort, hein, qui sera confirmée après la finale d'Europa League. Mais Eden Hazard se dirige vraisemblablement vers le Real Madrid, pour, vu qu'il lui reste un an de contrat à Chelsea. On en reparlera avec Adama, mais c'est dans les tuyaux. Donc Eden Hazard, hein, qui se rapproche du Real Madrid, qui est une des premières grosses recrues pour Zidane avant de lancer la lessive estivale, puisque le Real, une année sans titre après trois Ligues des Champions, ça fait tâche.
Oui, mais le Real a laissé partir beaucoup de bons joueurs sans les remplacer. Donc cette fois-ci, Zidane est venu avec la clé du camion, il va tout refaire. Donc,
espérons.
Mais il est obligé.
Jomo Dabeng, vous êtes avec nous.
Oui, bonjour coach.
Bonjour Jomo.
Bonjour Audouin, avec bonjour. Des analyses aussi pointues et tout ça. Christian Sango, bonjour aussi à toi.
Merci. Salut Jomo.
Ça fait tellement longtemps que voilà quoi. Je suis en train d'intervenir aujourd'hui là sur le championnat un peu français. Je sais que je vais un peu vous déboussoler en parlant de la défaite un peu de Marseille.
Ouais.
Je suis Marseillais à la base, ça c'est sûr et certain.
Bravo.
Oui, je suis Marseillais.
Et moi aussi.
Quand on était,
on était
tous petits chez nous, on était tous Marseillais, hein, au temps d'Abedi Pelé et tout cela, hein, vous savez. On n'était pas encore trop vieux comme vous, mais bon, on était quand même, on suivait les grands frères. Ouais. Mais je dirais que le championnat français, quand même, si je dois faire une petite analyse, elle a été quand même détail. Mais malheureusement, que mon équipe Marseille n'est pas allée au bout de ses efforts. Quoi. Bon, vous savez aussi que le début du championnat n'a pas été très facile pour Marseille aussi. Hein.
Ouais.
On le sait, ils ont changé au moins deux fois ou trois fois d'entraîneur. Même avec l'arrivée des Balotelli, ça a changé un tout petit peu. Mais bon, on n'a pas pu tenir le cadre. Je dirais bien que Marseille doit faire, comme on dit, hein, mieux vaut reculer pour sauter grandement, quoi, je pense.
Ouais.
Et je souhaite encore que l'année prochaine soit pour Marseille une année de bonheur, de prospérité, même s'ils ne sont pas champions, qu'ils soient au moins vice-champions. Mais je vais tout juste parler un peu du Paris Saint-Germain, si vous me permettez.
Ouais.
Allô?
Oui.
Si vous me permettez, coach, je pense que Paris Saint-Germain, cette année, a encore montré, comme ce que j'ai dit toujours sur Africa Radio, hein, Paris Saint-Germain, ce n'est pas une équipe, hein, malgré qu'il y ait Neymar et tout cela. Vous voyez que Paris Saint-Germain a fini le championnat en boitillant un tout petit peu quand même, nous sommes sans ignorer. Bien vrai qu'il reste encore localement le champion et aussi internationalement moins fort, quoi, je veux dire. Et puis, ben voilà. Que l'année prochaine commence bien et puis ben, qu'Africa Radio continue toujours de nous donner de très bonnes nouvelles. Quoi.
D'accord.
Sans oublier que je dirais quand même merci à tous ceux qui font le ramadan. Je suis en train de le couper d'ailleurs, j'ai mon grand frère à Palaiso. Et donc, merci à vous.
Bon appétit.
Bon appétit.
Merci beaucoup. Je ne peux pas vous inviter. Hein. Il est en train de manger son bac à
la. Ah, ben voilà, c'est ça. Là, on ne nous invite pas quand ça parle de bouffe. Hein. Merci. Hein.
Merci, Jomo Dabeng.
Merci.
Merci beaucoup. Merci. On va continuer donc sur l'équipe.
Oui, sur le Real Madrid, on était là, on parlait de cette défaite. Et puis donc là, le Real, hein, qui est déjà en train de préparer la saison prochaine, donc là, qui va très certainement récupérer Eden Hazard. Je sais qu'il lorgne aussi sur un international sénégalais. Donc
ouais.
Ils vont pas pouvoir prendre tout le monde, malheureusement. Mais exactement. Et sur genre un, mais même deux, donc pour renforcer la défense. Avec l'international qui évolue du côté de Naples, Koulibaly, ouais. Et notamment Sadio Mané, mais ils vont pas pouvoir prendre tout le monde. Mais le Real finit difficilement cette saison, il reste une journée, saison vite à mettre aux oubliettes pour le Real Madrid.
Et ils veulent Pogba aussi, donc et tout le monde doit partir, je ne sais pas comment ils vont faire. Mais non,
de toutes les façons, c'est des noms qui sont avancés, mais ils ne peuvent pas prendre tout le monde, comme le dit. Moi je crois,
mais c'est pas la presse qui avance, c'est Zidane lui-même qui avance, non.
Non, mais ça m'étonnerait, ça. Qu'est-ce que c'est que ces conneries-là?
Oui, mais il le dit. Il n'a pas peur de le dire, lui.
Ouais, mais bon, attends. Oh. Zidane n'est pas assez fou pour.
Non,
pour
il n'a pas dit, mais il a dit que ces joueurs-là l'intéressent.
Oui, mais ça, avoir un intérêt pour un joueur, ça c'est tout à fait normal.
Ouais.
Ça c'est tout à fait normal, mais bon, il sait bien que c'est pas faisable, n'est-ce pas, Christian Jean?
Bah, ça va être, on sait que le financièrement, en tout cas, ils ont pas de soucis à ce niveau-là. Après, s'ils veulent aller chercher notamment des joueurs comme Paul Pogba, il va falloir faire de la place dans l'équipe, parce qu'il y a des joueurs qui sont déjà là, comme Toni Kroos, comme le Ballon d'Or actuel Luka Modric, Isco, donc Casemiro. Donc il y a du monde du côté du Real, et c'est vrai qu'on annonce beaucoup de noms pour les arrivées, mais pour les départs, hormis Gareth Bale, on ne sait pas encore comment ça va se passer. Donc ça va être très agité du côté de la Casablanca. Et Florentino Pérez, on le connaît, hein, avec une saison comme ça, il va vouloir frapper très fort sur le marché des transferts. Donc à suivre attentivement, dans les prochaines semaines pour savoir ce que ça va donner du côté du vestiaire de la Casablanca.
On va parler maintenant de la Ligue 1, si on a rapidement, avec le classement et tous les matchs qui se sont tenus. Notre ami, bien sûr, le Marseillais, nous a devancé. On l'a laissé parler pour qu'il puisse donner son avis contre Marseille. Et comme ce qui est toujours étonnant, c'est le fait que toujours le Marseillais va trouver une plaie au PSG.
Oui, mais c'est normal.
Non, mais pourquoi ? Le PSG, cette année, est indéboulonnable. Je ne vois pas pourquoi.
À quel niveau ?
Mais à tout, sur le championnat.
Ah, championnat, ouais.
Oui, sur le championnat, bien sûr.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.
Sur la Ligue 1, coach, 36e journée avec donc la victoire de Montpellier face à Saint-Etienne, 1-0. La victoire du PSG face à Angers, 2-1. Un but partout entre Nice et Nantes. Monaco en grand danger, défaite face à Nîmes, 1-0. Caen l'a emporté 3-2 face à Reims. Dijon a battu Strasbourg, 2-1. Amiens, Toulouse, 0-0. Rennes, Guingamp, 1-0. Lille, Bordeaux, victoire des Lillois, 1-0. Et de moi on a parlé, l'Olympico, Marseille, Lyon, défaite des Marseillais ou victoire des Lyonnais, 3-0. Au classement, bien sûr, Paris premier champion, Lille deuxième mais assuré d'être en Ligue des Champions, Lyon troisième, Saint-Etienne quatrième, Montpellier cinquième, Marseille sixième, Nice, septième, Monaco en danger, 17e, Caen, Dijon et Guingamp, qui est officiellement relégué, ferment la marche du classement de la Ligue 1.
Alors, Doyen, ce qui est étonnant dans ce championnat de France, c'est surtout la position de Monaco. À un moment donné, on a cru que Monaco reprenait du poil de la bête, mais on se rend compte que finalement, ce n'est que du pétard mouillé. Là. Non, ouais. C'est inquiétant. Mais est-ce que vous pensez que réellement, parlons hormis le fait que Guingamp est donc en Ligue 2, mais des équipes qui risquent aussi de partir.
Ouais. Oui, juste pour donner une précision, donc Guingamp est dernier et relégué officiellement avec 26 points. Dijon est 19e avec 31 points. Caen et Monaco sont donc 17e et 18e avec 33 points. Donc Dijon peut encore passer devant Monaco et Monaco peut se retrouver aussi en barrage. Donc le mal est plus profond qu'on le pensait, puisque tu l'as dit, coach, c'est vrai. Donc Monaco a mal commencé, ils ont viré Jardim, ils ont pris Thierry Henry, ils ont viré Titi Henry, ils ont fait revenir Jardim, ça repartait. Et finalement, il retombe. Et donc, c'est très, très, très compliqué pour Monaco, qui n'est pas à l'abri, comme il y a quelques années, de se retrouver en Ligue 2.
Oui, je vous avais dit déjà une fois, et ça fait presque un an, que moi, j'ai toujours souhaité que le Monaco soit relégué en deuxième division, simplement parce qu'ils ont fait une politique anti-sportive. Mmh. C'est-à-dire que, à chaque fois, c'est devenu une entreprise où on revend les joueurs, on garde. Donc, ça a marché trois fois. Et la dernière, cette dernière fois, il n'y avait plus grand-chose pour lutter sportivement. Donc, la faute de Monaco est en train de payer une politique. Ce n'est pas Jardim ni Thierry Henry qui devaient sauver Monaco. Monaco a fait exprès d'être dans cette situation-là. On a vu les joueurs qui ont quitté Monaco. Tu vas avoir un joueur qui a quitté Monaco qui est en finale de la Champions League à l'heure actuelle.
On a vu, Doyen, que quand même, il y a des joueurs qui sont venus renforcer et que ce sont des joueurs quand même qui sont pas mal du tout. Et quand on voit des joueurs comme qui sont venus, Vinicius et tout ça, qui sont venus à l'intersaison, on ne peut pas dire que Monaco a perdu au change, puisqu'il y a eu à peu près au moins plus de 11 joueurs qui ont été changés.
Oui, mais une équipe ne se forme pas à l'intersaison. Une équipe, c'est un bloc. On doit débuter avec un bloc. Donc Monaco s'est suicidé et lui-même. Donc moi je ne peux pas pleurer pour Monaco, puisque moi je suis sur le plan sportif. Nous on parle ici de sport. Donc Monaco a fait une politique anti-sportive. Ouais. Donc je ne peux pas plaider pour, je peux pas pleurer pour Monaco, non.
Autre équipe en danger.
Oui, autre équipe en danger, donc on en a parlé à Monaco, donc Caen et Dijon notamment qui sont relégables aussi, donc Caen qui quand même se reprend bien depuis quelques journées et enchaîne les victoires, et Dijon avec Antoine Comboiré aussi qui réussissent à revenir sur le devant de la scène, hein. Dijon a battu Strasbourg notamment 2-1, donc pour ces deux équipes-là, ça va être compliqué, mais il reste encore deux journées. Tout est faisable dans un sens comme dans l'autre. Donc vraiment, que ce soit pour Monaco, Caen et Dijon, ça reste encore ouvert. Mais attention quand même, si on devait mettre une équipe sur la forme actuelle, malgré tout le talent qu'ils ont, c'est vrai que Monaco, en talent individuel je parle, c'est vrai que Monaco est quand même dans une spirale plus négative que les Canets et les Dijonais qui, eux, sont vraiment... à la poursuite de leur objectif de se maintenir. Donc on sait très bien que le football c'est beaucoup dans la tête aussi, et ils sont plus dans une spirale positive pour les deux autres équipes que Monaco qui eux sont dans un peu d'une sorte de gouffre psychologique. Là c'est compliqué, on a vu là sortir quelques informations sur le vestiaire monégasque, c'est un peu la zizanie à tous les niveaux, donc c'est compliqué pour Monaco.
Bah écoutez, on va revenir un peu sur la Ligue des Champions alors, donc
dans ce...
Ouais, bien sûr, la Ligue des Champions, donc les demi-finales retour ont eu lieu la semaine dernière, avec la demi-finale retour entre Liverpool et Barcelone. On rappelle qu'au match aller, Barcelone avait corrigé Liverpool 3-0, et Liverpool, pour se qualifier, devait en mettre 4 à Barcelone, et c'est ce qu'ils ont fait. Liverpool a battu Barcelone 4-0 avec... Divock Origi qui a mis un doublé, l'international belge, et l'international hollandais Wijnaldum qui a mis 2 buts également, qui ont permis donc à Liverpool de faire l'impossible et de se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions. Et dans l'autre rencontre, Ajax Amsterdam Tottenham, l'Ajax avait battu Tottenham en Angleterre 1-0, et au match retour, tout avait bien commencé pour l'Ajax qui menait 2-0 avec notamment un but de Ziyech avant la mi-temps, et sorti du chapeau l'international brésilien dont on parlait tout à l'heure, Lucas Moura, qui a mis un triplé en seconde mi-temps, 3 buts du pied gauche s'il vous plaît, qui ont qualifié l'équipe de Tottenham pour la finale de la Ligue des Champions. Donc finale 100% anglaise, Tottenham-Liverpool qui se jouera du côté de Madrid, clin d'œil à Adama. Donc Barcelone sorti, mais l'Espagne est encore présente en finale de Ligue des Champions avec le Stade de Madrid qui accueillera la finale entre Liverpool et Tottenham.
Hasard ou réalité, franchement, c'est la question qu'on se pose quand on a regardé ces deux matchs-là. Est-ce que vraiment c'est ça le football ? Est-ce qu'au sortir de ces matchs-là, on ne peut pas dire que c'est réellement injuste, surtout pour l'Ajax d'Amsterdam qui... méritait quand complètement sa victoire et qui a vu sur les dernières secondes. Comment on peut analyser un match comme ça vers la fin de du temps réglementaire ou du temps dire additionnel et qu'on c'est se retrouve
comme disait Christian, tout se passe sur le plan psychologique. Donc moi quand j'étais tout petit, mon père me dit qu'il va envoyer une lettre à la FIFA pour qu'on change le nom de ce sport, au lieu de l'appeler football, de l'appeler brain ball. Le cerveau. C'est-à-dire que quand l'Ajax menait 2-0, à un moment donné du match, les Hollandais ne jouaient plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à peine, je ne sais pas vers quel moment, et ils ont donné confiance aux joueurs, aux Anglais. C'est là où ils ont perdu le match. C'est-à-dire que les jeunes ont compris qu'ils ont gagné le match, ils sont qualifiés déjà avant la fin. En deuxième mi-temps, je dis, à 2-0, quand ils sont revenus, ils n'avaient plus cette fougue qu'il y avait en première mi-temps.
Mais est-ce que ce n'est pas la fatigue aussi ?
Ça peut être la fatigue ou de la naïveté, ou dû à leur jeune âge. Mm-hmm. Je ne sais pas.
Non, il faut peut-être aussi parler de la bonne performance de Tottenham. Après, ça ne se joue à rien, c'est le football. Il y a des victoires comme ça qui arrivent à s'acquérir à la dernière seconde. Ça a été le cas ce soir-là, et Tottenham a su saisir sa chance. C'était pas facile parce que c'est vrai qu'ils avaient sorti l'Ajax, la Juve et d'autres équipes également. Mais là, le plus fort dans ce match-là, c'est redoutable. On peut se dire que voilà, Tottenham n'a pas eu de bol, n'a pas eu de chance. Mais Tottenham a peut-être provoqué ce petit brin de folie à la fin.
La confiance.
Pour pouvoir justement assurer le coup. Et comme le dit Willy, au niveau du mental aussi. Peut-être
c'est l'autre qui donne la confiance.
Beaucoup
c'est...
plus costaud mentalement.
Oui.
Mais moi, je ne suis pas d'accord avec toujours ceux qui disent c'est ça le football, etc.
Non,
etc.
C'est une question
c'est
de confiance.
Moi, je n'analyse pas comme ça.
Comment ?
Moi, j'analyse un match par rapport à ce qu'on voit sur le terrain.
Oui.
C'est-à-dire, qu'est-ce que l'Ajax a pu commettre comme erreur pour pouvoir se faire battre. Mais le football, c'est pas ça.
Non, c'est de baisser la garde.
Ouais. C'est-à-dire baisser la garde, oui, peut-être.
À un moment donné
c'est
du match.
C'est pourquoi je pose la question.
C'est l'ascendant psychologique.
Non, je ne pense pas. Je pense que ça peut être de la fatigue.
Oui.
Est-ce que le système de jeu de l'Ajax sur ce match-là était adéquat par rapport à ce résultat-là?
Moi, justement, là-dessus, donc, une des raisons donc, de la défaite de l'Ajax, évidemment, c'est au plan du mental. Et la deuxième, pour moi, c'est l'aspect du jeu, c'est l'aspect du style de jeu de l'Ajax. L'Ajax, à 2-0, à la mi-temps, ils auraient dû, à titre personnel, je trouve, renier un peu leur style de jeu.
Exactement.
Et arrêter de jouer.
Frapper. Aller chercher le ballon du côté de
Après, on ne peut pas leur reprocher. On dit il faut mourir avec ses idées. Clairement, là, c'est ce qui est arrivé à l'Ajax. Voilà. Jusqu'au bout du bout, l'Ajax a joué. Et là, il leur a manqué ce petit vice qu'ont les joueurs d'expérience. Ouais, parce que c'est une équipe très jeune. Et ils auraient dû fermer la boutique.
C'est la
là, clairement, il faut fermer la boutique.
Il faut tomber.
2-0.
Il faut tomber.
Il faut tricher un peu.
Comme non, c'est pas la triche, mais
il faut du vice. Il faut du vice.
C'est peut-être de la jeunesse qui leur a.
Oui, c'est la naïveté.
Mais de l'autre côté, il y a eu aussi l'ascendant psychologique qu'a pris Tottenham dans cette rencontre.
Mais Tottenham, c'est normal parce que vous avez un coach qui s'y connaît quand même.
Un Argentin en plus.
Un Argentin.
Et qui influe la confiance.
Exactement. C'est quelqu'un qui, quand même, depuis qu'il est entraîneur, et depuis qu'il était même joueur, il fallait le voir au Paris Saint-Germain, il a été un gagneur.
Oui.
Donc, il inculque ce truc.
Ouais.
La confiance. Pochettino, Lamine, tu as raison, il joue avec ce côté-là.
Un peu comme le Cholo Simeone, hein, pareil.
Ouais,
exactement.
Comme Simeone.
Ouais. Et c'est ça le sport.
La grinta avec le vice, avec l'expérience, avec on sent le football. Mais là, effectivement, les joueurs de Tottenham ont été beaucoup plus matures que les joueurs de l'Ajax, tout simplement.
Après, j'ai l'impression, et malheureusement, c'est grâce au PSG qu'on a ça maintenant, depuis la remontada originelle et le 6-1, que en termes de mental, c'est rentré dans la tête des joueurs que rien n'est impossible. Vraiment, que ça l'a toujours été, mais encore plus maintenant. On l'a vu cette année, on l'a vu l'an dernier, et maintenant on en voit beaucoup, c'est vrai, de ces renversements de situation.
Ouais,
et ça joue beaucoup.
Et puis il faut reconnaître que l'Ajax n'a pas eu de chance.
Non, évidemment, coach.
N'a pas eu de chance, parce que sur ce dernier but, regardez les deux derniers buts.
Mais oui.
L'avant-dernier but où c'est le partenaire de Onana qui lui sort le ballon des mains.
C'est ça.
Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, c'est sur le but de Lucas, elle est contrée.
Mais il faut dire aussi que la chance, ça se provoque aussi.
Oui, c'est ce qu'on dit, mais bon.
Mais on a vu dans le match que Lucas voulait, on le sent par rapport à ses attitudes, on voit qu'il voulait gagner le match.
Après, j'ai regardé juste, ça m'a fait sourire, juste pour voir un peu les stats de Lucas. Il a mis 7 buts du pied gauche dans toute sa carrière. Il en a mis 3 la semaine dernière. Donc c'est vraiment...
Des pointus pourris, là. C'est ça. Rapidement, oui, Hakim, avant qu'on passe au journal de Christian Chango.
Non, rapidement, donc, pour revenir effectivement sur cette analyse dans ce match entre l'Ajax et Tottenham, tout simplement souligner la belle performance et le beau match, parce qu'il y a eu pour avoir un beau match, il faut deux beaux clubs. Et là, en tout cas, l'Ajax, même si effectivement ça faisait très très longtemps qu'ils n'avaient pas atteint ce stade de la compétition, il faut quand même saluer la belle performance des joueurs de l'Ajax depuis le début de saison.
Voilà.
Et il faut aussi souligner que la remontada au niveau de Liverpool n'est pas une surprise
non.
par rapport au match aller. Parce qu'au match aller, on n'a pas vu ce club de Barcelone dont tout le monde parle. On ne les a pas vus dans le match. Ils ont gagné 3-0, qui ne correspondent pas du tout à ce match.
On a vu qui ? Messi.
On a vu Messi vers la fin. Et le jour où on n'a pas vu, toute l'équipe est partie avec Messi.
Dernier mot, demi-finale aussi de l'Europa League. Chelsea s'est qualifié pour la finale en battant Francfort au pénalty. Et Arsenal s'est qualifié pour la finale en battant Valence 4-2 avec un triplé de Pierre-Emerick Aubameyang qui a permis Arsenal de se qualifier. Donc Arsenal-Chelsea, finale de l'Europa League.
En tout cas, tout se passe dans le football anglais.
Ah ouais, tout.
Messieurs, quelques informations donc sur le football continental et on commence avec Yaya Touré. Alors que tous les médias de la planète sportive ont repris ce week-end l'interview de son agent qui annonçait la fin de carrière de l'international, l'ex-international ivoirien. Yaya Touré donc a clarifié la situation sur son compte Twitter. Il y a eu de la confusion autour de mon futur récemment. Je veux être clair et précis. J'aime le football et je suis toujours prêt à jouer quelques années encore. Il a également ajouté, je me prépare à être entraîneur, mais ce n'est pas ce à quoi je pense en ce moment. Je suis concentré et prêt pour de nouveaux challenges footballistiques. Et ne vous inquiétez pas, le temps venu, je vous annoncerai ma retraite personnellement.
Il joue actuellement.
Et bien justement, ce que j'allais dire, coach, on rappelle hein, que Yaya Touré est sans club depuis son départ de l'Olympiakos en Grèce en début de saison, enfin début d'année civile 2019. Donc pour l'instant, Yaya Touré s'entraîne, mais il est sans club.
Il pourrait se retrouver peut-être à Marseille.
Tout à fait.
Oui, c'est très intéressant pour lui parce que c'est un très bon joueur. Donc pour Marseille, je signe tout de suite.
On a reçu donc un ex-international togolais tout à l'heure, Emmanuel Adebayor, et on va continuer en parlant du Togo et en parlant du sélectionneur Claude Leroy qui donc était un peu contesté ces derniers jours et la fédération donc togolaise, le président de la fédération togolaise pardon, Guy Akpobdi a confirmé donc le maintien de Claude Leroy en place tant que la fédération n'a pas lancé un appel à candidature pour le poste de sélectionneur. Cela veut tout simplement dire que Claude Leroy est et demeure le sélectionneur national. Il a également précisé qu'il ne décidait pas de son avenir et qu'il voulait effacer la tâche de Cotonou.
Ok.
Ouais, donc bonne chance à lui alors.
On continue, messieurs, avec la Tanzanie donc, qui est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et le chef d'État tanzanien John Magufuli a mis la pression sur l'équipe et la sélection tanzanienne à quelques semaines de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Après donc, l'échec de la sélection tanzanienne en CAN U17 qui était organisée par le pays, le chef de l'État a précisé que ce qu'il avait qualifié de honte nationale n'avait pas intérêt à se reproduire. À l'image de mes concitoyens, je cite le président, à l'image de mes concitoyens, je ne sais pas comment oublier cette honte, donc l'élimination tanzanienne en U17, de se faire battre de la sorte sur ses propres terres. Je ne sais pas ce qu'il adviendra de notre sélection à la prochaine CAN, mais nous avons vécu des moments difficiles lors de la CAN U17. Certainement qu'on va perdre des matchs. Ce sera encore une fois une honte nationale. Nous avons été très déçus du comportement des U17. C'est une honte pour le ministère des Sports. Et si j'étais à sa place, je prendrais mes responsabilités pour que les choses aillent dans le bon sens.
De quoi il se mêle ? De quoi il se mêle, lui ?
Bah, c'est le président, non ? Bien.
On parle de sport, là.
Je ne fais que lire la...
Non, mais écoutez, c'est...
Le président des sportifs.
Mais écoute, c'est...
Non, je pose la question, moi.
Il fait le point. Okay. Voilà.
On continue, messieurs, avec...
Rapidement, il reste 2 minutes.
Il reste 2 minutes. Dernière info donc, qui concerne le Nigeria. Il y avait un match normalement amical prévu du côté de la France dans quelques semaines entre le Nigeria et le Maroc. Et le Nigeria, après la fédération pardon, nigériane, a précisé que le match entre le Maroc et le Nigeria qui devait s'organiser ici n'aura pas lieu. Le Nigeria affrontera, on rappelle, pour la CAN, le Zimbabwe et le Sénégal notamment.
Ah ouais, c'est...
Zimbabwe et Sénégal.
C'est un bon choix.
Non, pardon. Le premier match se jouera contre le Zimbabwe et le match amical, le second, contre le Sénégal. Voilà, ouais, c'est ça la bonne information en entier.
Un bon choix, ça.
Messieurs, bon, on se retrouve semaine prochaine. Il nous reste donc 1 minute. Une petite conclusion pour chacun de vous.
Ouais, c'est que juste pour dire aux gens qu'on a vécu de beau football. Les remontadas font partie du football. C'est maintenant que les gens le découvrent, mais un footballeur, celui qui a pratiqué ce sport, sait que c'est possible.
Alors, pour moi, venez nombreux hein, pour le tournoi des légendes.
Ah, le tournoi des légendes du côté de la porte de Montreuil.
Le 8 mai.
Le 8 mai. Le 8 juin.
Le 8 juin, finesse.
Le 8 mai, c'est passé déjà.
Oui, c'est passé.
Donc, au stade Louis Lumière, côté de la porte de Montreuil, venez voir les légendes du football africain.
Avec notamment Emmanuel Adebayor.
Adebayor, Campana, qui va donner le coup d'envoi si possible.
Possible.
Oui, moi, un dernier mot, juste pour préciser à tous les fans du football congolais que Florent Ibengue est actuellement du côté de la Belgique. Il surveille un peu, il fait le tour des internationaux congolais. Et on va le voir très bientôt du côté de la France. Il y a un jeune Nantais qui intéresse la sélection à suivre.
Ah ouais.
Oui, Hakim, alors, dernier mot. On vous a pas beaucoup entendu, hein, c'est le Ramadan qui fait ça.
Ouais, non, c'est effectivement la fatigue du week-end, puisqu'il y a eu du boulot ce week-end et très actif.
Parce que Zizou a perdu ce week-end, il faut tout dire aux auditeurs.
Très actif le week-end dernier, beaucoup de boulot, mais très content d'avoir retrouvé les auditeurs depuis Abidjan. Et je tiens à féliciter bien sûr tous ces clubs, Lamine Badiane, donc qui font partie bien sûr de l'élite dans Ligue des Champions, Ligue Europa, et notamment aussi. Bientôt qu'on va parler donc la Champions League africaine.
Dans quelques instants, la suite de notre programme avec Fatou. Tu vas où? Et pas de bonnes nouvelles puisque Fatou va parler du surveillant qui a été décédé.
Tout feu, tout foot, l'émission 100% foot sur Africa Radio.